ゲーム、ラディオ。
Invade you.
There is a price to pay for everything you gain.
Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Game Radio, je suis ravi de vous retrouver après cette dure journée de réglage pour essayer de vous proposer ce live Game Radio qui plante un petit peu apparemment, beaucoup de difficultés pour vous surtout, eh bien à vous connecter, et pour moi aussi d'ailleurs, tiens j'arrive plus à me connecter à Game Radio tout simplement, donc j'espère que vous nous entendez, qu'il n'y a pas trop de soucis, vous êtes très nombreux, je suis très agréablement surpris, plus de 30 personnes, 40 personnes qui écoutent cette émission, cette première, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux, ça me touche tout particulièrement parce que j'ai mis beaucoup de cœur à essayer de vous proposer ce soir une première émission qui bien entendu avec le temps va s'améliorer, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue rédactionnel, de ce qu'il y aura dans cette émission. Alors j'espère que vous ne serez pas déçus, que vous n'avez pas mis de votre côté la barre trop haut, parce que vous attendiez peut-être un Game Radio & Co quotidien. Ça sera pas forcément ça, même si j'essaierai de mon côté, puisque c'est moi qui vais animer cette émission, de vous proposer quelque chose qui soit quand même à la hauteur de vos espérances. Voyez plus ça comme une animation en direct de ce flux audio qui était un petit peu mort, pas très vivant. On va essayer tous les soirs de donner un peu de vie à cette radio en live. Donc on est en direct. Je vois qu'il y a très peu de monde sur le site. J'ai l'impression qu'il y a eu un plantage intégral. Apparemment, vous n'êtes plus que deux. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas grave. Je continue. Je parle donc aux deux personnes qui peut-être m'entendent actuellement ou pas. 44 auditeurs en train de nous écouter. Merci. J'espère que ça ne s'accade pas trop. Alors, cette émission, donc je vous le disais, vous attendiez peut-être à retrouver notamment toute l'équipe de Game Radio, Jarel, Calam, Shoham, peut-être Kalia. Alors Kalia, il faut savoir que là il est 21h et qu'elle est en train de dormir, on lui fait un gros bisou pour qu'elle fasse un gros dodo, mais chez elle il doit être à peu près 6h du matin, puisque je vous le rappelle, elle est au Japon, mais ça vous le savez. Jarel, pourra pas forcément être dispo le soir pour participer à cette émission, j'en suis le premier, désolé. Calam participera sans doute à l'occasion, et Shoham aussi, bien entendu, c'est pas évident, ils ont leur travail, ils ont leur quotidien, et le soir, c'est pas toujours simple de se poser comme ça sur Game Radio. En ce qui me concerne, je m'engage à faire le maximum pour vous proposer 4 fois par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, cette émission. Et j'espère qu'elle vous plaira. Alors, étant tout seul, j'ai un peu paniqué, parce que j'espérais quand même que certaines personnes de l'équipe soient un petit peu plus enthousiastes et fassent l'effort de participer. Donc j'étais un petit peu en panique cet après-midi, et puis j'ai lancé un SOS sur le stream, un help, un message de désespoir, et j'ai eu une réponse. Zoro est arrivé et m'a tout simplement proposé de participer à cette émission. Il s'agit de Pipo Mantis. Et on se connaissait pas il y a 4 heures, et on a fait connaissance en moins d'une dizaine de minutes, et il est avec moi ce soir pour animer et co-animer en tout cas cette émission. Pipo Mantis, bonsoir, merci d'être là.
Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Gus, c'est ravi d'être le chevalier masqué ce soir.
C'est tout à fait ça. Alors, je te connais pas bien moi-même, donc je te propose, si tu veux bien, te présenter peut-être aux auditeurs qui nous écoutent, qui eux me connaissent un petit peu, donc je vais pas moi me présenter. Je suis Gus, en passant, au cas où, si vous ne m'avez pas reconnu. Et donc, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens? Je crois que... Alors, tu as une surprise, tu nous en parleras un peu plus tard, mais je crois que tu as vraiment un pied dans le monde du jeu vidéo, en tout cas le monde des médias.
Alors, dans le monde du journalisme vidéoludique, comme certains l'appellent, oui, puisque ça va faire 5-6 ans maintenant que je suis dans le milieu, j'ai œuvré sur un site qui s'appelait Gamerside, qui s'appelle toujours Gamerside d'ailleurs, où on présentait les Gamerside Diaries, qui était une émission, ça a duré un an et demi ça à peu près.
Je te coupe, à pas confondre avec Gamerside, S-I, toi tu parles.
Exactement.
Du Gamerside avec un Y.
Exactement, voilà. Donc là-dessus, on avait fait les Gamerside Diaries à l'époque. Puis ensuite, j'ai travaillé pour de nombreuses publications du groupe Yellow Media, qui s'appelait encore Future France à l'époque. Donc, j'ai fait du joypad, du joystick, du jeu vidéo magazine. J'ai aussi été chef de rubrique jeux vidéo sur première.fr. Enfin, voilà, j'ai pas mal de presse vidéo, enfin, de presse jeux vidéo derrière moi.
Et alors, accessoirement, tu écoutes Game Radio à longueur de journée, si j'ai bien compris?
Tout à fait. Et là, en ce moment, je suis au chômage et je joue à King's Bounty. Et c'est un jeu qui prend beaucoup de temps et où les musiques sont nulles. Alors, je mets Game Radio et ça, c'est vrai.
Très bien. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer en contact avec toi par le biais du chat, tout simplement. Et quand tu m'as proposé de participer avec moi, en tout cas de me sauver la vie pour ce premier soir, parce que tout seul à l'antenne pour une première, c'était un petit peu tendu. J'avoue que là, je me sens un peu mieux. merci en tout cas à toi. Donc, on va animer cette émission tous les deux. Je vais juste faire un petit tour du côté du chat et du site, voir si c'est revenu, si on peut communiquer avec nos auditeurs ou pas, si c'est possible. Ça va prendre un peu de temps. Bref, on va attendre que le site se réactualise. Voilà, vous êtes nombreux, vous le savez. Game Radio a peu de moyens et le serveur marche au charbon. Je le répète assez souvent, donc voilà. Le sommaire de cette émission, parce qu'il y en a un quand même, on a préparé deux, trois choses. On va faire d'abord un petit retour sur l'actu JV de la journée. Ça, vous aviez l'habitude avec les flashs. Les flashs, c'est terminé. Dorénavant, ce journal, entre guillemets, on peut l'appeler comme ça, sera fait dans cette émission, tous les soirs. Enfin, tous les soirs, quatre fois par semaine. Donc dans une première partie, qu'on va appeler retour sur l'actu tout simplement, Pipo Mantis bien entendu, tu feras ça avec moi.
Avec plaisir.
Voilà, et puis nous ferons en fait bien sûr des pauses musicales tout au long de cette émission, on vous a prévu quelques jolis morceaux, et puis nous aurons donc la revue de presse juste après, avec un zapping, vous découvrirez ça tout à l'heure, et nous aurons pour cette première des invités, pas n'importe qui, puisque, surprise, on va recevoir l'équipe de Bas Gros Point. En tout cas, les deux personnes qui étaient à la World Game Cup 2011, il y a quelques jours, et qui vont venir faire le point avec nous sur cet événement, et puis nous dire un peu comment ça s'est passé, ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu le truc. Il faut savoir que moi, j'ai pas pu le suivre de très près, donc ça c'est super, je vais pouvoir en savoir un peu plus. Donc on les recevra à la fin de cette émission, sans doute pendant la dernière demi-heure. Je vois qu'il est déjà tard, puisqu'on a commencé un petit peu tard, on avait des problèmes techniques, mais à 22h, normalement, on devrait les retrouver. Voilà, bah écoute, je te propose, Pipo Mantis, qu'on passe tout de suite à l'actu jeu vidéo de la journée, de ces dernières 24 heures.
Allons-y.
Alors, actu jeu vidéo de la journée, si tu veux bien, je commence. Hein. Je rappelle qu'on est le lundi 28 février 2011, je peux pas m'empêcher de le faire, parce que je l'ai fait tellement souvent, ça, donner la date dans mes flashs. Première actu que moi j'ai relevée, Serious Sam 3, je suis un inconditionnel de Serious Sam. J'ai rejoué là encore récemment donc aux deux épisodes disponibles version HD, donc Serious Sam First Encounter et le Second Encounter, qui d'ailleurs était à petit prix récemment sur le Xbox Live, des jeux que j'affectionne tout particulièrement. On en sait un peu plus sur ce Serious Sam 3. Je sais pas toi, Pipo Mantis, oui, je crois que tu es assez addict aussi hein, de la
saga.
Moi
je suis gros fan de la série Serious Sam, le côté absolument idiot. Enfin voilà, j'ai découvert la série quand on m'a dit c'est une série où il y a des mecs qui viennent vers toi en hurlant mais ils sont décapités. Et à partir de ça, j'ai fait ok, c'est un grand jeu.
C'est clair, tout à fait. D'ailleurs, un petit détail, je reviens là-dessus parce que quand j'ai rejoué au Second Encounter, j'avais oublié ça. Je sais pas, dans le premier niveau en fait, tu arrives premier temple que tu abordes, t'as une porte cachée. Tu l'ouvres et là, t'as toute l'équipe de la Croteam qui sort de là avec leur gros crâne en forme de cerveau. Je sais pas si ça te dit.
Je savais pas du tout ça.
Ouais, et donc, ils sortent tout ça. Ils font... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je sais plus. Hello. Voilà, ils disent hello, hello. C'est insupportable parce qu'ils sont une quinzaine à faire hello, hello. Et donc, bon, tu peux les buter. Mais en fait, si tu descends dans la porte par laquelle ils sont arrivés, t'arrives dans une boîte de nuit. Enfin, c'est un gros délire, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un gros délire, ce jeu. Donc là, Serious Sam 3, on en sait un peu plus. On a vu quelques images, déjà, qui étaient particulièrement flatteuses. Hein. Le jeu semble vraiment beau. Après, il faut attendre de voir ce que ça donne. C'est vrai qu'entre les images et le jeu in-game, il y a souvent une grosse différence. Mais c'est prometteur. Là, en fait, on sait déjà que le jeu pourrait s'appeler Serious Sam 3 BFE. Alors, trois lettres, on sait pas exactement ce que ça veut dire. Certains sites parlent... disent que ça pourrait vouloir dire Battle for Earth, bataille pour la Terre, pourquoi pas. L'action de ce nouvel épisode prendra place avant The First Encounter, donc c'est une préquelle au premier Serious Sam.
C'est à la mode.
C'est à la mode, mais je trouve ça original.
Ah oui, clairement.
Ouais, c'est à la mode depuis Star Wars, en fait, j'ai l'impression. Je pense. Dans ce jeu-là, on combattra les armées de Mental, toujours, qui tentent d'envahir la Terre, et l'aventure devrait se dérouler en Égypte. La petite nouveauté au niveau des attaques, c'est que le corps à corps fera son apparition. je sais pas si c'est un grand plus pour le jeu, si ça va vraiment être, quoi que ça peut être pratique, parce qu'il y a des moments où on est quand même encerclé de pas mal d'ennemis.
Ça peut être pas mal de pouvoir faire le ménage avec un bon gros coup de pied, ouais.
Ouais, un bon gros coup de crosse, ouais, effectivement. Peut-être qu'il y aura des armes, justement, de corps à corps aussi, des battes de baseball, des choses comme ça. Ça se prêterait assez bien au gameplay de Serious Sam, à mon avis. Des nouveaux ennemis seront de la partie, mais là, on n'a pas beaucoup de détails. Alors, le truc le plus étonnant, enfin, moi, ce sur quoi je suis resté scotché, c'est l'annonce d'une campagne solo qui serait jouable en coopération jusqu'à 16 joueurs.
Ah, ça m'étonne pas.
Ah bon? Ah ouais, moi, j'étais sur le cul.
Bah, c'est... Ils arrêtent pas, en fait, déjà, sur le Serious Sam, les versions HD, en tout cas, je sais pas si c'était le cas sur les originaux, mais on peut monter jusqu'à 8, je crois, en coop. Crow Team, c'est des gars qui ont toujours voulu faire ça, mettre le plus de gens possible. En gros, je pense que leur rêve, leur fantasme secret, c'est d'avoir autant de joueurs que d'ennemis à l'écran, donc ils ont l'air d'être bien partis.
D'accord, 16 joueurs en tout cas, ça va être impressionnant. J'imagine les boss qu'on va avoir à buter à 16, ça va être énorme. En tout cas, ce jeu devrait être disponible cet été, moi j'ai vraiment hâte. Cet été, hein, ça approche très vite, hein. C'est dans 3-4 mois, même pas, on va pouvoir jouer à Serious Sam 3. C'est vraiment une année FPS, on l'avait déjà dit dans un Game Radio Co, je le répète. À mon avis, ça va être une grande année pour le genre.
Voilà. Il y a une petite chose sur ce Serious Sam qui me chiffonne, c'est qu'au vu des premiers screens qui sont tombés, ça a l'air d'être un univers assez réaliste. Assez finalement dans la mouvance next-gen, gris, marron, etc. Alors que les anciens, c'était quand même des jungles verdoyantes, des temples, des endroits un peu plus exotiques. Donc ça, je suis partagé. Je sais pas si ça me plaît ou pas encore, en fait.
Ouais, on aimait bien le côté encore, 3D, pas basique, parce qu'il y avait quand même quelques effets de végétation qui étaient sympas. Mais ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Le côté coloré un peu flashy du jeu qui disparaît. En même temps, les monstres font quand même assez... les créatures qui sont... quand même beaucoup mieux modélisé que, je sais pas si tu vois, les espèces de personnages éponges là.
Ouais, tout à fait.
Tout carré, qui sont quand même beaucoup plus jolis là sur ce Serious Sam 3 a priori. Je pense que ça peut être assez... on les croirait faits en pâte à modeler presque, tellement ils sont détaillés.
Il faut voir le traitement que ça va avoir à la fin.
Il faut voir comment ça va bouger. Alors, je vérifiais simplement si on pouvait accéder à la chatbox et pouvoir éventuellement avoir vos avis à vous sur Serious Sam 3. Apparemment, impossible pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, d'accéder au site. Je sais pas toi, Pantomime. Ok, voilà, donc on est bloqué. News suivante, donc avançons. J'espère qu'on j'arriverai à régler ce problème de chatbox, en tout cas de site qui plante très vite, pour pouvoir bien vous accueillir tous sur Game Radio et pouvoir communiquer avec vous pendant les émissions. News suivante, donc après Serious Sam, on a les premiers chiffres de vente de 3DS, puisqu'elle est sortie ce week-end au Japon. Donc elle s'est vendue, bien entendu, et c'est assez impressionnant. Il y avait 400 000 consoles qui ont été distribuées dans les magasins par Nintendo. Il y en a donc 371 326, c'est très précis, qui ont trouvé preneur là en deux jours.
Ah ouais, non, mais là c'est de toute façon, voilà, il y a marqué DS dans le nom, donc je suis pas vraiment étonné par le succès au Japon. Je suis très curieux maintenant de voir les chiffres américains et européens quand ils tomberont et quand la console sera en vente. Mais c'est surtout là que le marché est à prendre, entre guillemets, non, puisque Nintendo a déjà quasiment tout le marché pour eux. Mais le fait qu'il y ait DS dans le nom, c'est bon, enfin, elle se vend, quoi. Je suis pas étonné, pas tant que ça. Le chiffre effectivement impressionne, mais c'est pas si étonnant que ça.
Bah, tout à fait d'accord, c'est pas étonnant. Alors par contre, est-ce que tu sais quel est le jeu qui s'est le plus vendu avec la console?
Ah non.
Cherche un peu. Je sais pas.
Par rapport à ce que j'ai testé et aux différentes qualités des différents jeux, je dirais le Dead or Alive, mais j'en doute.
Non. Ah, t'as été impressionné par le Dead or Alive?
Ah ouais, pour moi, c'est un des meilleurs jeux du line-up à venir.
D'accord.
Il est super fluide quand il est en 2D, il est joli quand il est en 3D, il est complet, il est beau, il a tout pour lui, ce garçon.
Les poitrines en 3D n'ont pas du tout influencé ton...
Jamais.
D'accord, ok. Eh bien, c'est le professeur Layton.
Ah, cool.
Layton qui a trouvé acquéreur auprès de 117 589 clients. Voilà, donc c'est assez énorme. Bravo Nintendo, une fois de plus, mais je pense que le succès sera le même chez nous, hein, à mon avis. La console, alors justement, on avait mis un sondage sur Game Radio, vous demandant si vous aviez réservé la console. Alors, on a eu 40 participants, c'est pas énorme, c'est quasiment les personnes qui nous écoutent actuellement. C'est peut-être vous, d'ailleurs, qui avez voté. Sur ces 40, il y en a 32 qui n'ont pas réservé la console. Ça veut dire qu'il y en a 4 qui l'ont réservé, déjà. Bravo, c'est bien. Et 4 qui comptent le faire. Dépêchez-vous, parce que la console sort dans moins d'un mois maintenant, le 25 mars prochain. Il vous reste encore 25 jours pour la réserver. Mais je pense qu'à mon avis, ça fera comme pour la Wii. On avait déjà parlé dans un autre podcast, mais les réservations pourront pas être... elle sera en rupture de stock à la sortie. Je pense que la plupart des personnes qui auront réservé la console n'auront pas forcément leur console à la sortie.
Je dois même dire que je connais des gens... je connais des gens que je ne citerai pas qui ont déjà acheté deux pour revendre la seconde au prix fort. Hein.
C'est-à-dire qui ont réservé deux consoles ?
Qui ont réservé deux consoles pour être sûr d'en avoir deux et revendre la deuxième au double, triple du prix.
Ah, c'est pas con ça.
Non, c'est pas con. C'est pas joli, mais
c'est une bonne idée pour pouvoir payer les serveurs de Game Radio. C'est une très bonne idée.
Voilà.
Je vais acheter un stock de DS. Voilà. Alors, autre news que j'ai relevé aujourd'hui. Je sais pas si tu veux intervenir à n'importe quel moment de ton côté, peut-être pour.
Pas de souci. J'aurai une petite chose à dire après. Ben, un petit peu plus tard.
Tu me laisses continuer. Alors, Minecraft. Ah, Minecraft. Vous le savez certainement. Déjà, forcément, le jeu, tout le monde en parle. Même les plus gros médias qui, pour le moment, n'en parlaient pas. J'entends parler à judo.com, Gameblog, et voilà, commencent à s'intéresser de façon très, très, virulente à Minecraft. Eh bien, vous le saviez sans doute, Minecraft va être porté sur iPhone et iPad. Marcus Persson, le créateur du jeu, envisagerait même, en tout cas c'est ce qu'il aurait laissé entendre lors d'une interview donnée au site Gamasutra, il aurait laissé entendre qu'une version console n'était pas à exclure. Il aurait parlé des succès, de choses comme ça, des petits détails qui laissent entendre que le jeu pourrait débarquer sur console. Je vois pas exactement comment ça pourrait s'adapter sur une console de salon vu qu'il y a ces histoires de serveurs. Peut-être le solo, mais je crois qu'il faut quand même pouvoir créer des sessions, accueillir des personnes. Je sais pas si ça s'adapte très bien à la console. En tout cas, ça pourrait tourner sur une PS2.
Si, oui, enfin, ça pourrait tourner sur une DS même. Hein,
c'est ce que je voulais dire. Ouais.
Ouais. Mais après, oui, c'est vrai qu'en termes d'infrastructure, je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais enfin, il aurait juste tort de se priver. Hein. Ça va être, je vais dire la même chose que pour la 3DS, mais on arrive presque à un statut où quand il y a écrit Minecraft, ça veut dire que c'est forcément génial et que donc vas-y, prends-le sur ta 360 aussi, prends-le sur ton iPhone, prends-le sur ton iPad. Et il a tout à fait raison, ce jeune homme qui s'est fait plaisir avec des cubes et qui maintenant est riche à milliers.
Sans compter que Minecraft, c'est quand même bien. Enfin, je sais pas.
Alors, j'aimerais pouvoir dire si c'est bien ou pas, mais je me connais en fait et j'ai pas voulu mettre le doigt dedans.
Alors, j'ai mis le doigt.
J'avais beaucoup trop peur de perdre tous les gens que j'aime.
J'ai mis le tout petit doigt, un ongle. J'ai mis un ongle pour voir. Et j'ai compris qu'effectivement, il y avait un potentiel énorme. Je me suis dit, si je me lance là-dedans, je vais y passer ma vie. C'est-à-dire que c'est un jeu créatif. Au départ, tu crées, tu accueilles des gens dans ta partie, forcément, c'est extrêmement addictif. Donc forcément, l'idée est excellente, quoi. C'est pour moi une sorte de... Ça me fait penser, en fait, au jeu de rôle grandeur nature, où tu crées totalement ta partie et tu accueilles des personnes pour y jouer. Sauf il y a les avatars. Je le voyais un petit peu comme ça, puisqu'en fait, tu peux créer des sessions où tu peux faire une chasse à l'homme, tu peux partir, faire des quêtes, trouver des objets... Tu manages ta partie. C'est pour moi, c'est une sorte de RPG. Quelque part aussi, c'est un gros mélange de tout, de jeu de Lego, FPS.
C'est ce que j'allais dire, voilà. Enfin, moi, souvent, quand j'en parle, je l'appelle le MMO Lego et c'est vraiment ça, quoi.
Exactement. Ouais, tout à fait. C'est ça, le MMO Lego. Ça lui va très bien. Donc voilà, peut-être sur console un jour. Une dernière news, tu n'hésites pas à intervenir aussi. Ankama.
Vas-y.
Ankama, bien entendu. Là aussi, grand succès, comme, Minecraft, hein, plus grand encore, plus de 300% d'augmentation de chiffre d'affaires en 4 ans, c'est énorme, ça laisse rêveur. Il faut savoir que ça fait maintenant 10 ans hein, qu'Ankama existe, et que ils auront 10 ans pardon, le 15 mai prochain. Donc,
déjà.
On leur souhaite presque un joyeux anniversaire, on y arrive. Aujourd'hui, donc, avec Dofus, ce sont, je crois, 40 000 joueurs qui jouent à Dofus dans 150 pays. Le chiffre d'affaires du groupe en 2010, l'année dernière, a augmenté de 300%, donc, c'est ce que je vous expliquais. Ça équivaut à 40 millions d'euros, pardon. J'essaie de m'y retrouver dans mes chiffres, excuse-moi. et le nombre de salariés, ça c'est bien quand même, nombre de salariés du groupe qui a augmenté l'année dernière, 450 salariés aujourd'hui, c'est plus de 100% sur 4 ans. Voilà, donc ils recrutent en plus. D'ailleurs, ils recrutent pas que des programmeurs, des dessinateurs. Apparemment, Ankama, il y a une sandwicherie et un restaurant sur place, réservé au personnel. Et ils comptent, et j'étais impressionné, ça montre vraiment la success story et l'espèce d'American success à la française avec une crèche qui devrait ouvrir ses portes prochainement, qui serait réservée aux enfants des habitants du quartier, pour les enfants qui travaillent en tout cas chez Ankama.
Ah, ce que j'allais dire, ouais, ça fait penser un peu
à la firme.
À Google, à ces boîtes comme ça, ouais.
Exactement.
Il y a un côté, enfin, ça a ses effets pervers aussi de foutre ses gosses là où on bosse, enfin bon.
Ouais, c'est une grande famille. Après, il y a peut-être un état d'esprit très positif. Faut pas oublier qu'on est dans le Nord, que ce sont des gens très accueillants, très ouverts, plein d'humour. Et je pense qu'il doit faire bon vivre chez Ankama, à mon avis, je crois. Enfin, je sais pas, il faudrait faire.
Il n'y a jamais été, j'espère, en tout cas, ouais, mais en tout cas, c'est clair que la prise de, les 300% gagnés en 4 ans sont impressionnants. On pouvait s'en douter un petit peu déjà en voyant, je crois que c'était il y a un an ou deux qu'ils avaient ouvert leur succursale japonaise, tout ça. Donc, ça commence vraiment à grossir. Par contre, j'ai un vrai problème avec eux, c'est, leur communication est super étrange. Par exemple, ça va faire, ces deux dernières années, je me suis demandé si Wakfu était sorti ou pas.
C'est vrai,
je crois que je sais toujours pas vraiment.
Bah, j'ai l'impression qu'en fait, ils s'adressent pas aux... Oui, ils ont du mal à s'adresser... Enfin, ils ont du mal à communiquer auprès des personnes qui ne sont pas déjà adeptes de leur jeu ou de leur série, des gens qui les suivent. C'est vrai que moi, c'est pareil. On reçoit très peu de communiqués de presse. Pourtant, c'est... Enkama, on les a interviewés sur Game Radio déjà. Plutôt il y a 2 ans, d'ailleurs. Au début de Game Radio, on avait des rapports assez proches avec eux. Et puis, c'est vrai que ça s'est un peu étiolé. J'ai l'impression qu'ils vivent un peu sur leurs acquis. Je sais pas, c'est une impression, mais... Effectivement, c'est pas grand-chose. Il y avait même des jeux prévus. Je crois qu'il y a un jeu XBLA qui est prévu.
Oui, c'était Island of Wakfu. Ouais.
Exactement. Je sais pas. Je sais pas du tout où ça en est. Ça devait sortir l'année dernière, si je me souviens bien, en fin d'année. Et c'est pas sorti finalement. Donc, à voir. Alors, on va faire un petit retour sur le site. Non, j'ai toujours pas accès au site. Je suis tout à fait désolé. J'espère que vous nous entendez, que vous pouvez nous suivre en direct.
Moi, je sais qu'on en a quelques-uns qui nous écoutent parce que je les ai sur Twitter, mais après, sur le site, c'est vrai que j'ai pas accès non plus, malheureusement.
D'accord. Bon, ben voilà. On est victime de notre succès. Game Radio cartonne. Il y a trop de monde. Donc, on peut pas communiquer avec vous. Ça me frustre beaucoup. C'était un des intérêts de ce direct, pouvoir avoir vos avis, bah, notamment sur les news, là, peut-être relever 2-3 phrases que vous auriez mis dans le chat, pour pouvoir avoir vos avis sur Enkama, Minecraft et la 3DS, pourquoi pas.
Il faut peut-être jeter un œil sur le compte Twitter de Game Radio, peut-être que...
Il est pas très actif en général, mais bon,
d'accord.
Je vais aller jeter un œil pendant la pause musicale. Pipo Mantis, dis-moi, est-ce que tu avais toi peut-être une news ou quelque chose à rajouter par rapport à l'actu de cette journée?
Ouais. Oui. Oui, il y a une petite chose. Alors, c'est pas sur cette journée, c'est sur ce week-end. J'ai été choqué, on va utiliser ce mot-là pour pas être scandalisé, par le trailer de We Dare, alias Petit Flirt entre amis chez nous, la dernière production d'Ubisoft sur Wii et PS3,
ouais.
Qui est donc finalement, c'est le jeu de la bouteille sur Wii. Hein, c'est 48 mini-jeux pour essayer de tripoter la copine de son meilleur ami ou autre. Hein, c'est, par exemple, tu vas te mettre la Wiimote à l'arrière du pantalon. T'allonger sur un copain qui, en te mettant des fessées, va faire avancer les personnages.
Carrément, d'accord. Okay.
Dans le trailer, ils se mettent des fessées, ils jouent au jeu de la pomme, donc en étant deux à essayer d'appuyer sur le bouton d'une Wiimote et finir par s'embrasser, etc. Ça m'a donc scandalisé parce que c'est un pas en arrière gigantesque dans l'acceptation du jeu vidéo en tant que médium mature, etc. Je fais un petit peu mon mec outré, mais j'avoue que pour le coup, le côté, toi aussi fais ton spring break sur Wii, ça m'a un peu choqué. D'autant plus que le jeu ne sort pas aux États-Unis. Ouais. On ne sait pas pourquoi, mais le marché américain n'est pas visé par le jeu. Le jeu est 12+, parce que bien évidemment dans le jeu il y aura jamais rien de tendancieux. Donc ils sont contents de pouvoir vendre, je pense, un jeu à des gamins de 16 ans qui vont effectivement boire une Smirnoff Ice, faire tourner la bouteille et essayer de tripoter leur voisine de classe. Et surtout, on a l'impression que Ubisoft essaie de cacher la campagne de com et toute la sortie de ce jeu, parce qu'en fait il est déjà sorti, et on dirait qu'Ubisoft essaie de cacher tout ça aux gamers entre guillemets, et que nous sur le net on n'a pas entendu parler du jeu. En fait j'ai cette impression qu'ils sortent un jeu en espérant juste que des gens l'achètent au hasard dans un supermarché.
Alors c'est sans doute ça, j'ai pas l'impression non plus que ce soit un gros jeu. On en avait un petit peu parlé, je crois, sur Game Radio déjà dans une précédente émission, enfin là on l'a évoqué. Moi je trouve le concept amusant en soi, enfin moi, je suis chez des amis, on me propose de jouer à ça, je suis preneur, hein, y a pas de problème. Mais bon, chacun, c'est, je sais pas. Je suis pas choqué par l'idée de, enfin, je sais pas, faut voir après, en même temps, je suis marié. Pardon. J'ai rien dit. Ça s'adresse pas du tout à moi.
C'est grillé maintenant.
Je suis grillé.
Mais non, je sais pas. C'est peut-être la manière dont ça a été fait. C'est peut-être la pub en elle-même. Parce qu'on te met dans un espèce de, on te met dans le carcan des publicités. Oui, à savoir, tout le monde s'amuse, tout le monde est gentil, c'est pour toute la famille et tout. Et puis tout d'un coup, c'est quand même un truc. C'est un simulateur de début de partouze, quoi. Donc.
Ça veut dire qu'il peut y avoir des jeux un peu plus matures finalement sur Wii. Mais c'est un jeu qui sort aussi sur PS3.
Ouais, ça sort aussi sur PS3 avec le Move. Un jeu plus mature, je sais pas. Pour moi, un jeu plus mature, c'est un jeu qui est correctement écrit, c'est un jeu intelligent. C'est pas forcément un jeu effectivement ou pour toucher pour toucher les fesses d'une nana, je suis obligé de lui mettre la Wiimote dans le pantalon quoi.
Oui, en même temps, c'est un fantasme. Bref, il y a eu des fausses pubs faites comme ça hein, j'ai le souvenir avec justement la Wiimote, il me semble.
Exactement, ouais, tout à fait.
J'ai un souvenir comme ça au lancement de la Wii, il y avait eu des fausses pubs de fait. Très bien. Ben, j'aurais bien aimé pouvoir parler un peu plus de ce jeu avec toi. Malheureusement, j'ai pas vu le trailer en question et j'ai pas été voir. Je crois que j'ai vu une jaquette en passant, mais je me suis pas intéressé plus que ça à ce jeu.
Alors, voilà la jaquette en plus. Bon, déjà, t'as le gros 12 plus qui, moi, à chaque fois, chaque fois que je vois la jaquette, j'ai le 12 plus qui me saute à la gueule. Mais au-delà de ça, enfin voilà, c'est un fauteuil rose avec un soutif dessus et une paire de menottes roses en fourrure. Enfin non, ça fait vraiment truc cheap de mauvais sex shop, quoi.
Très bien. Alors, je vous propose qu'on fasse une première petite pause musicale. On va se retrouver juste après. Pause musicale avec, eh bien, ça c'est pour Kalia, spécial dédicace, un morceau du jeu Catherine qui s'appelle Stray Sheep, le mouton errant. Souvenez-vous, dans Catherine, il y a des moutons errants. Voilà, donc on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Alors nous voilà de retour pour la suite de cette émission. Ah, je crois qu'on a enfin accès au site. Apparemment, c'est bon, c'est revenu. J'accède enfin à Game Radio. Bonjour tout le monde, j'espère que vous pouvez suivre cette émission. Vous êtes 50, c'est assez exceptionnel. C'est du rarement vu sur Game Radio. Je voulais m'excuser auprès de Pantomime. Non, pardon, je fais exprès. De Pipo Mantis, que je vais appeler Pipo maintenant, ce sera plus simple. Je m'excuse auprès de Pipo, je t'ai appelé Pantomime. Voilà, c'est je le répète, on se connaissait pas il y a 10 heures hein, donc
c'est vrai. Forcément, rien n'est truqué. On a rien dans les manches.
Exactement, il faut absolument qu'on apprenne à se connaître un peu mieux. Alors, oui, bonjour Densetsu. On va prendre 5 secondes pour discuter un petit peu avec vous. Est-ce que ça se passe bien? J'espère que vous appréciez cette émission. On fait de notre mieux, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le chat bug un peu, je m'en doute, vous êtes nombreux, un peu moins sur le site, ce qui fait que ça allège effectivement le fait qu'on puisse se connecter. J'ai oublié aussi de parler d'une des news, on va le faire maintenant de toute façon, il s'agissait des meilleures ventes de jeux en France de cette dernière semaine, la semaine du 14 au 20 février, avec, alors j'étais assez surpris, et en même temps non, en tête, alors on va peut-être commencer par la cinquième position, tiens, on va faire un peu de suspense, cinquième position, Test Drive Unlimited 2 sur PS3, le jeu de Namco Bandai se vend assez bien finalement, effectivement moi dans ma liste d'amis j'ai pas mal de personnes qui jouent à TDU, je sais pas toi, Pipo.
Non mais moi le problème enfin c'est ils jouent tous au numéro 1 en fait parce que je choisis méticuleusement mes amis sur le live en fait.
D'accord, qu'est-ce qu'il faut comprendre?
enfin, tu verras quand on arrivera au numéro 1.
D'accord, oui, effectivement. Alors, ah oui, d'accord, j'ai compris. Ah, je pensais que tu parlais au premier TDU. OK.
Non non.
Et ben déjà tu vas voir qu'au numéro 4 tu vas pouvoir peut-être nous en parler. Marvel versus Capcom 3 Fate of World est quatrième sur Xbox 360. Ce sont les meilleures ventes de jeux par console. Donc, le jeu de Capcom est en quatrième position. Just Dance 2 sur Wii, donc le jeu d'Ubisoft, en troisième position. En deuxième position, Call of Duty Black Ops, c'est assez impressionnant, sur PS3. Impressionnant de voir que le jeu continue à bien se vendre, en tout cas chez nous. Et puis, en première position, on y vient, bien entendu, et c'est pour ça que tu nous parlais du numéro 1, Marvel versus Capcom 3, Fate of Two Worlds, pardon, sur PS3, cette fois-ci, et donc numéro 1. Le jeu s'est très bien vendu, d'où ma surprise, je pensais trouver Killzone 3, moi, en première position.
Killzone 3, qui finalement n'est même pas dans le top du tout.
Exactement.
Qui se fait raser par Black Ops. Mais je dois avouer que le fait qu'il y ait deux fois Marvel Capcom 3 dans les meilleures ventes françaises de la semaine me remplit de joie et d'allégresse, tant c'est un jeu pour lequel j'ai de l'affection.
Alors, je n'y ai pas joué pour le moment. Je vais peut-être pas parler de mes souvenirs des versions précédentes, notamment sur Dreamcast. Ça va peut-être pas refaire le petit côté rétro gaming de l'émission, mais est-ce que tu peux, toi qui y joues, apparemment, nous parler un petit peu de ce Marvel vs Capcom? Moi, à vue de nez, comme ça, ce qui m'a impressionné, c'est tous les nouveaux venus, notamment de chez Capcom. Alors, tous les nouveaux héros, les nouveaux personnages.
Alors, il y a une chose à mettre en contraste, ça ne se dit pas, c'est que il y a beaucoup de nouveaux venus, mais justement pour beaucoup qui ont dégagé quoi. La plupart des gros joueurs de Marvel Capcom 2 attendaient le retour de Strider, de personnages comme ça. Strider n'est plus là. Jill Valentine est en DLC alors qu'elle est sur le disque et elle se jouera plus du tout de la même manière. Mais effectivement, attention, les nouveaux venus, aussi bien d'ailleurs du côté Capcom que Marvel, sont fantastiques. Moi, je sais que justement les trois que je joue sont des nouveaux, notamment Spencer de Bionic Commando, qui est vraiment jouissif.
Ouais.
Et donc Marvel Capcom 3, en fait, je reviens très vite sur les bases. C'est un jeu de baston en 3 contre 3, avec donc un casting de folie, puisqu'on a Beautiful Joe, Chris Redfield, Hulk, Deadpool, etc.
Le chien d'Okami.
Oui, Amaterasu, la louve.
Amaterasu, la louve, pardon, oui, excusez-moi.
Le chien, tu offenses une déesse.
Kalia serait là, elle m'aurait défoncé. Bon, ok. Ouais.
Et donc voilà, c'est un casting de malade, des affrontements donc à 3, donc des affrontements assez longs quand même, parce qu'il y a 3 barres de vie à réduire à néant. On peut changer de personnage quand on veut, bien sûr. Et surtout, la marque de fabrique des Marvel vs Capcom, c'est une vitesse hallucinante. C'est des combats frénétiques. C'est absolument hystérique. Ça explose dans tous les sens. Il n'y a pas une seule seconde de répit. C'est très spécial. Hein. Quand on sort, comme moi, de 2 ans de Street Fighter 4, qui est un jeu finalement assez lent et posé, ça fait bizarre de retomber sur Marvel Capcom 3. Mais quel bonheur une fois qu'on a un peu assimilé, quoi. C'est jouissif.
Le jeu est beaucoup plus bourrin. Il y a une dizaine d'années. En même temps, on associait beaucoup hein, le Marvel vs Capcom avec Street Fighter. À l'époque, c'était bon, bien sûr, ils étaient très différents, mais il y a eu des Street Fighter. On pouvait incarner plusieurs personnages, si je me souviens bien. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça.
Toujours des crossovers avec des personnages de Marvel, justement.
D'accord, ok.
À peu de choses près. Ouais. Il y avait eu le, c'était Marvel Super Heroes versus Street Fighter. Après, t'as eu Marvel vs Capcom, quand ils se sont rendus compte que Street Fighter, il y avait limite pas assez de gens avec tout ce qu'ils voulaient mettre en face. Non, t'avais eu les SNK versus Capcom,
c'est cela, effectivement.
Mais ça, c'est des matchs où c'était pas du tag, c'est-à-dire, si je me trompe pas, tu pouvais pas changer en plein milieu.
Dès qu'un ton premier personnage était au tapis, tu passais au suivant.
Exactement.
Ce Marvel vs Capcom, c'est pour ça que je parlais de Street Fighter, est-ce qu'on retrouve vraiment la même patte graphique, ou est-ce que les deux jeux se diversifient beaucoup? Alors, est-ce qu'on voit même une évolution par rapport au Street Fighter? Enfin, si on doit les comparer, je sais que c'est pas forcément une bonne idée, que c'est pas forcément faisable, mais si on devait comparer Street Fighter 4 et Marvel vs Capcom, lequel est peut-être, c'est con, mais le plus beau, le plus, voilà.
Alors, je dirais que Street Fighter 4, c'est le jeune adulte, et Marvel Capcom 3, c'est l'adolescent hystérique. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que Street, voilà, c'est le quatrième opus officiel, mais ça doit être le 125e de la saga Street Fighter. Donc, ils ont maintenant toute leur base, ils savent exactement où ils vont. Marvel Capcom 3, même si ça fait plus de 10 ans que ça existe, ben, ça reste que le troisième épisode. Et je dis pas attention que c'est bordélique et qu'ils savent pas où ils vont, parce que le jeu est vraiment à un haut niveau. Il faut vraiment quand même savoir ce qu'on fait. Mais il a un côté beaucoup plus festif en fait. Le moteur graphique, si je me trompe pas, c'est plus ou moins celui de Tatsunoko versus Capcom. Donc très coloré, très comics, très bande dessinée. Donc effectivement, des couleurs qui explosent beaucoup plus. Alors que sur Street Fighter, t'as un côté un peu plus presque pastel. Mmh. Donc au final, t'en as un qui est plus calme que l'autre. Ouais, c'est ça, c'est le gamin turbulent, quoi, Marvel Capcom 3.
Il y a une dizaine d'années, Marvel vs Capcom sur Dreamcast notamment, puis plus sur PS2, je crois, qui était sorti aussi. Ce qui faisait l'attrait du jeu, c'était ces décors en 3D qui étaient du jamais vu. On avait donc des personnages qui se bastonnaient en 2D et un fond en mouvement, animé, en 3D. C'était superbe, avec des furies assez hallucinantes et des combos à plusieurs, si je me souviens bien. Tout ça, on le retrouve dans ce Marvel versus Capcom 3, j'imagine.
Alors ouais, on le retrouve. Bon, les décors, c'est un peu plus chiche. Il y en a des très bons, d'autres un peu plus faibles. Et les combos à plusieurs, c'est carrément devenu en fait une composante essentielle du gameplay. C'est que maintenant, on jette l'adversaire en l'air. On pouvait déjà le faire avant, mais maintenant, c'est vraiment devenu essentiel. C'est-à-dire que si tu maîtrises pas ça, ça sert à rien d'aller jouer sur live pour se faire rouler dessus, quoi. Mais en gros, on envoie l'adversaire en l'air avec un personnage. On le combatte, on envoie un deuxième sur lui alors qu'il est encore en l'air, et le troisième. Donc en gros, on peut faire défiler tout son cast sur un adversaire.
Ok, alors moi, un truc qui m'avait rebuté, j'y reviens, j'ai pas joué à Marvel vs Capcom depuis 10 ans. Il y a 10 ans, ce qui me rebutait, je me souviens, c'était la façon dont les mouvements étaient décomposés. Je me souviens que je jouais beaucoup avec Spider-Man, et que j'ai un souvenir de mouvements qui étaient un peu secs, d'un coup à l'autre, c'était il y avait pas beaucoup de
c'est-à-dire tu trouvais ça un peu saccadé, quoi.
Ouais, un peu saccadé, les mouvements étaient pas bien décomposés, c'est le sentiment que j'avais à l'époque.
Est-ce que là c'est plus fluide, voilà, d'un coup à l'autre, c'est ça aussi la question.
D'un coup à l'autre, est-ce que là, par exemple, dans cet épisode-là, il y a plus de fluidité dans le personnage, la façon dont il bouge, est-ce que c'est moins sec, moins...
Alors les animations des persos sont excellentes, vraiment super fluides et beaucoup de classe. Par contre, effectivement, quand tu vas d'un coup à l'autre, il y a toujours cette espèce de hachure qui est tout bêtement que il faut que tu puisses entrer ton combo.
Ouais,
et que ça va toujours y avoir cette espèce de petite percussion à chaque coup que tu vas mettre qui va hacher un poil le gameplay. Et c'est ça que j'aime bien, moi, justement, parce que t'es plus propre pour faire ton combo.
Moi, c'est ce qui m'avait gêné il y a 10 ans. Mais c'est vrai que le jeu est attirant, même pour les personnes qui sont pas des aficionados du jeu de baston. Un jeu pareil, c'est un feu d'artifice.
C'est ça, voilà, exactement. C'est ce que je disais, quoi. C'est une fête.
Ouais, tout à fait. Bref, voilà, donc Marvel vs Capcom 3, premier aux ventes de la semaine dernière sur PS3. Enfin, c'est un jeu PS3, mais c'est le premier. Enfin, il s'illustre deux fois, première et quatrième position sur PS3, sur Xbox 360. Et je le répète, très surpris de pas avoir le Killzone 3 dans ce quintet de tête. Je ne sais pas si ça se dit, on va dire ça comme ça. Voilà, très bien. Je vous propose qu'on écoute tout de suite le petit zapping du jour. Je vous laisse découvrir ça. Je vous en parle après si vous voulez le zapping tout de suite sur Game Radio.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et d'ailleurs, vous allez voir que ce qui est bien avec les jeux vidéo, eh bien, c'est qu'il y en a tout au long de l'année, et ce même pendant les périodes les plus creuses.
On a choisi de démarrer cette vidéo de Port-Biroute.
Oui.
Puisque c'est là qu'on vous avait quitté la dernière fois.
Donc Port-Biroute, l'imagination de Darn et de Hiro.
Exactement, mais Port-Biroute qui n'a pas beaucoup changé parce que les biroutiens ont trouvé que JVville, c'était vachement bien.
Voilà.
Du coup, ils ont décidé de venir s'installer à JVville.
Comme elle vient également d'arriver à la rédaction, nous avons voulu vous faire partager ce moment toujours un petit peu particulier du déballage de la console. Donc vous découvrez ce packaging qui est très semblable à celui qu'on aura en Europe, il est juste un petit peu plus fin, ce qui prouve que Nintendo tient à souligner que ce n'est plus une déclinaison de la Nintendo DS, mais véritablement une toute nouvelle génération.
Et c'est vraiment agréable de voir que Capcom s'est pas moqué des joueurs par rapport à d'autres titres du lancement de la 3DS. Il y avait quand même pas mal de jeux, je les citerai pas, il y a pas mal de jeux où il manque beaucoup d'options, où il n'y a pas de online, où les modes de jeu sont vraiment vraiment restreints. Là, de ce côté-là, on a un jeu complet avec avec tout ce qu'on pouvait attendre d'un blockbuster de ce type.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est pourquoi?
Bah, c'est pour faire une blague, non? C'est pas ça? C'était pas, y a pas un casting, non?
Vas-y,
non.
Vas-y,
bon.
Vas-y.
Non mais Virgile, tu l'as vu la jaquette de Elle est noire? Tu l'as vu?
Non. Non.
Tu l'as pas vu?
Non.
Bah t'as pas manqué grand chose, elle est noire. Hein. C'est gratuit hein.
Pokémon no koukan de aru toka, maari de asonderu hito no play joukyou ga wakaru yō na systeme mo haitte masu nde, kore ma tomodachi to waiwai ga.
Voilà, j'en ai réussi à en choper un, je vais le mettre dans le spit, et là, je vais le mettre dans le feu, ils pourront pas venir le chercher avant le
bien joué.
Et ouais, parce que toi, tu crains pas le feu, alors.
Bah, si, moi, je crains grave le feu, mais lui aussi.
Ouais, mais t'as fait un choix de, d'accord.
Oui, okay. Voilà, moi, je m'en fous, j'ai une vie, je vais respawner dans 20 secondes, c'est pas grave.
Et si alors, plus c'est un humain, il a qu'une vie.
Ça l'a mis au sol. Bah, exactement, là, ils ont plus beaucoup de...
Est-ce que ça va tuer les consoles portables? J'ose espérer que non. Parce que c'est la mort du vrai jeu, c'est la mort du gameplay. Sur portable. Alors, ok.
Puis, jouer comme ça, bah, on a regardé tout à l'heure Dead Space. Tu mets les doigts sur l'écran. Enfin, je veux dire, ça veut rien dire.
Bah déjà, il y a un truc moi qui me.
T'as la moitié de l'écran qui disparaît avec tes doigts.
On va voir si leur stratégie a fonctionné. Apparemment, tout repose sur Clément qui a attaqué.
Non, l'amène pas vers moi. Ah, je peux pas spawner si tu l'amènes vers moi. Ah, l'erreur.
Qu'est-ce qui se passe là?
Oh là, je me suis fait tuer, mais.
Oh non.
Je les ai chargés, je me suis fait tuer d'un coup de hache. Ça, c'est le genre de coup qui m'énerve. Parce que je sais pas comment ils font pour faire ça.
Voilà, vous aurez compris tout simplement en l'écoutant, le principe du zapping, ce sont des petits extraits, des petites phrases de différentes vidéos qui ont été diffusées hier ou avant-hier ou aujourd'hui sur l'ensemble des plus gros sites, qu'on le veuille ou non, de jeux vidéo en France, Gameblog, jeuxvideo.com, Gamekult, jeuxactu.com, jeuxvideo.fr, Gameblog, jeuxvideo.fr, Gameblog, jeuxvideo.com, Gamekult, il y en a 5 en fait, donc ça va vite. Vous aurez entendu notamment la petite blague bien vue sur jeuxvideo.fr dans leur émission Warp Zone, c'est donc l'émission 10, si je me trompe pas, de la saison 2, avec la blague sur Elle est noire. Je sais pas ce que t'en as pensé, Pipo.
Affligeante, donc extraordinaire.
Voilà, exactement.
C'est souvent comme ça chez Warzone, c'est ça que j'aime bien. Tout à fait. Plaisir et ça se sent.
Ça se sent, c'est clair. Jeuxactu.com aussi avec Garance qui commence son émission avec ce qui est bien avec les jeux vidéo, c'est qu'il y en a toute l'année, même quand il n'y en a pas, en gros. Enfin, c'est un petit peu la façon de tourner les choses, je trouvais ça amusant. le serveur de jeuxvideo.com sur Minecraft avec donc JVville, c'est assez amusant, voilà. Qu'est-ce qu'on entend d'autre? Julo qui déballe sa 3DS de façon très enthousiaste apparemment. Bon, il a pas l'air plus excité que ça. Et puis ce que vous avez pu entendre aussi, c'est à un moment le défi de la rédac justement de jeuxvideo.fr sur Left 4 Dead 2. Là, il y a deux extraits, mais tout du long, j'ai trouvé que le journaliste, enfin le chroniqueur, je sais plus son nom, faisait preuve de mauvaise foi régulièrement alors qu'il n'arrêtait pas de perdre. Donc c'était assez amusant, voilà. Pour le zapping du jour sur Game Radio, vous le retrouverez dès demain. Cette émission a lieu demain, je commence à avoir des doutes, vu les problèmes qu'on a avec le serveur, mais j'ai l'impression que ça s'est un petit peu réglé, a priori.
Je crois que, oui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun souci. Hein.
Ok, très bien. Tout le monde nous entend bien, là je suis sur le chat, donc c'est peut-être le moment justement qu'on essaye de discuter ensemble. Je vois qu'on parle de BlazBlue, de Tekken, de jeux de baston, très bien. Ah oui, j'ai oublié de parler effectivement de Drevet, voilà, j'arrive plus à le dire. De Drevet et HL qui parle justement de l'iPhone et de la jouabilité sur iPhone. On dirait vraiment les deux vieux du Muppet Show un peu. Hein.
C'est vraiment ça, ouais. À chaque fois je les revois les deux vieux dans leur fauteuil rouge, je me dis c'est nul. Et c'est vraiment ça.
Sans être méchant, mais c'est vrai que tu enlèves l'image, c'est encore pire. On a vraiment l'impression d'entendre, je veux dire, une méchanceté. On s'en fout, Gameblog nous écoute pas. On a l'impression d'entendre, on a l'impression qu'ils sont bourrés même limite. On dirait une discussion de comptoir de mecs avinés un peu. Enfin bon, c'est méchant. Je comprends que tu ne réagisses pas à ce que je viens de dire. C'est normal. Continuons donc. Il est déjà quasiment 22h. Alors on a deux solutions. C'est du direct, donc bien entendu on va improviser. On avait prévu une revue de presse. La revue de presse c'est quoi? Ça peut être par exemple faire le tour des sites pour voir un peu les notes qui ont été attribuées à un jeu ou à plusieurs jeux. ou pourquoi pas parler d'un magazine qui vient de sortir ou d'éventuellement d'un article sur un site qui nous a plu. En l'occurrence, vu le temps qui nous reste et comme on a des invités dans cette émission et que tu vois qu'une heure ça passe très vite, enfin trois quarts d'heure, c'est puisqu'on vrai. A commencé en retard, je propose qu'on parle d'une seule chose dans cette revue de presse, c'est une chose qui te concerne.
Ah,
et je pense que tu sais de quoi je veux qu'on parle. Voilà. Donc je te laisse la parole tout simplement, j'en dis pas plus.
Alors voilà, je...
T'as l'air ému.
Un petit peu ému. Est-ce que je vais bien parler de ce dont je veux parler?
Écoute, vas-y.
Avec mon confrère et ami Ned Sabès, Sébastien Delahaye, donc cofondateur de Naufrag. On aime donc énormément les jeux vidéo, on lit beaucoup de presse jeux vidéo, et on commençait à fatiguer de lire souvent les mêmes sites. Reviews, news, previews, c'est super. Il y a des sites qui le font très bien, d'autres qui sont même d'excellents potes. Mais on voulait un truc un petit peu une sorte de Destructoid, Games Radar à la française. Et comme on voulait lire ça et qu'on pouvait pas le lire en français, on s'est dit qu'on allait l'écrire. Donc on est en train de monter bardevie.com, .fr.net. Donc ça devrait sortir courant mars en théorie, et c'est on se plaît à dire que c'est le jeu vidéo avec un cerveau. Alors c'est un petit peu pompeux, mais c'est voilà, on essaie de prendre ça autrement, c'est-à-dire peut-être pas blindé de news, mais en mettre qu'une ou deux, mais qui soit un petit peu plus fouillé, des choses comme ça. Il y aura des rubriques bien précises. On a aussi édité plus ou moins par Canard PC et Presse Non-Stop. Donc un gros bisou à eux en tout cas pour nous soutenir là-dedans. Et puis voilà, donc ça sort pas tout de suite. Pour l'instant, il y a juste une page teaser et donc je suis là pour faire le teaser. Mais c'est la première fois que j'en parle en tout cas.
Donc site barre de vie à venir, juste comme ça, réaction à chaud. C'est pas un peu prétentieux la façon dont tu présentes, enfin le fait de dire le jeu vidéo avec un cerveau. Je sais pas. Est-ce que tu penses vraiment que la plupart des sites, pas prétentieux, mais est-ce que c'est non, c'est pas les choses, c'est pas ça que je voulais dire. Je ne le prends pas mal. Est-ce que, selon toi et peut-être la personne avec qui tu crées barre de vie, vous avez le sentiment de pas trouver ce que vous cherchez dans la plupart des sites qui existent déjà? Est-ce que vous avez l'impression que ces sites manquent parfois un petit peu de pas de cervelle, mais d'une approche peut-être un peu plus intello, c'est ça?
Pas forcément intello, parce que j'ai lu beaucoup de magazines ou de sites qui faisaient du jeu vidéo intello et c'était horrible. Non, pas forcément intello, juste que effectivement, comme tu le dis, nous il y a un truc tout simple, c'est que la news, on va la chercher sur les sites américains, tout bêtement parce qu'elle tombe avant et que et donc les sites français, c'est très bien ce qu'ils font. Mais ils font ça plus pour, j'allais dire, le public. C'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais nous, forcément, quand on va chercher l'info, on essaie d'aller la chercher à la source. On va sur les sites américains. Et en allant sur les sites américains, on se rend compte qu'il existe des choses comme Games Radar, Destructoid, qui sont des sites qui ont un ton bien précis.
Ouais,
et
vrai,
j'ai l'impression
vrai.
Que ça manque, ça, en France.
C'est vrai. Ouais, tout à
et
fait.
Donc, et ben, on va tenter de faire ça, et puis on va voir ce que ça donne.
Ok. Ben, en tout cas, bonne chance. Bon courage à Barre de Vie.
Ben, merci.
J'ai hâte de voir ça. Barre de Vie, est-ce que vous allez faire tout un délire visuel même autour de ça ou pas? La barre de vie, bien entendu, on rappelle, hein, c'est ce qui nous permet de c'est notre jauge, hein, de vie dans un jeu vidéo, tout simplement.
Tu vois, c'est ça qui est terrible. Ça prouve très bien quelque chose, c'est que la barre de vie, les gens oublient ce que c'est, parce que maintenant dans les FPS notamment, c'est marmelade de groseille quand tu prends des balles. Donc nous, barre de vie, voilà, c'est aussi le côté un peu, on est là depuis un petit bout de temps, mine de rien. Donc en théorie, on sait de quoi on parle. Ça peut paraître super prétentieux, dit comme ça, et c'est pas le cas du tout, hein. Mais voilà, c'est juste que on espère qu'on va intéresser des gens, en tout cas.
Ok, je vous le souhaite. Je pense déjà, moi, ça m'intéresse. Déjà, t'as bien fait ton boulot, je t'avoue.
Ah, merci. Super.
Là, j'ai hâte de voir. Donc, tu dis qu'il y a une page teaser. Si on tape bardevie.fr quelque part, on peut arriver.
Quelque part, voire même dans un browser.
D'accord. Voilà. Par exemple, c'est même conseillé. Ok, très bien. Bardevie.fr, net et org.
Et com.
Ok, d'accord. Très bien. Parfait. Alors, on va refaire une petite pause musicale et juste derrière, normalement, on devrait retrouver nos invités. Je le rappelle, Bagropoint, deux personnes de chez Bagropoint qui vont venir nous parler de la World Game Cup qu'ils ont animée pendant deux jours en direct, notamment en streaming. Vous avez pu les suivre sur Gameblog et vous avez pu les suivre sur leur propre site. Et on les reçoit normalement, si tout se passe bien, juste après cette petite pause musicale. Et pause musicale consacrée à un jeu qui fait peur. J'ai pas tellement aimé, moi, le teaser. On pourra en parler 5 minutes. Il s'agit de Dead Island. Tu n'es plus là.
Si, pardon, je pensais que t'allais lancer, que tu voulais en parler après.
Non, non, on va en parler tout de suite. Dead Island, donc je pense que la plupart des auditeurs qui nous écoutent, et toi, Pipo, vous avez vu le trailer, donc jeu de zombies. Est-ce que c'est la suite de Left 4 Dead? Est-ce que c'est les mêmes?
En quoi tu penserais la suite de Left 4 Dead?
Mais parce que je sais plus qui m'a glissé ça quelque part pendant une émission, ou Kalia peut-être qui m'a sorti ça, ou je l'ai vu sur un forum.
Parce que le jeu développé par Techland, donc ce sont des Polonais.
D'accord, voilà.
Donc absolument, du coup, zéro rapport avec Valve et compagnie.
Donc, okay,
non, non, c'est un jeu qui existe depuis très longtemps, parce que, pour te dire, moi, je l'ai vu il y a 3 ou 4 ans à une Gamesco à Leipzig. J'étais intrigué, mais sans plus, on n'avait pas pu en voir grand-chose. Et puis, le jeu est tombé dans l'oubli le plus total. Et quand le teaser est sorti, j'ai fait « Mais merde, c'est vrai que ce jeu existe, quoi !» Et que... dans Techland, ils nous ont pas forcément rapporté des choses magnifiques. Hein. Il y a eu Chrome, il y a eu les deux Call of Juarez qui étaient sympas.
Ouais.
Mais c'est pas non plus transcendant. Et le problème, c'est que moi, j'aime les zombies, j'aime les complexes hôteliers au bord de la mer, j'aime quand il fait beau, donc s'ils arrivent à rater tout ça, je vais me fâcher tout rouge, donc ça a intérêt à être très bien.
Et moi,
Oui, pardon, vas-y.
Oui, non, j'allais dire, moi, par contre, j'aime les enfants, et alors j'ai été particulièrement choqué par... c'est peut-être con, mais j'ai été choqué par le fait qu'un enfant soit mis en scène dans ce trailer... et se passe plus ou moins écorché, bouffé, si je me souviens bien. Ça m'a un peu choqué. Je crois que je l'ai même pas regardé en entier. Je sais pas pourquoi. Je suis papa, donc ça doit expliquer beaucoup de choses.
Je pense que ça voilà. Explique beaucoup, ouais, ouais.
Non, ils sont allés très loin, je trouve. Ils sont allés très loin.
Ils sont allés très loin. Et d'ailleurs, là, je pense au forum NeoGAF, qui est le plus gros forum américain de jeux vidéo. Même eux disaient, ah ben maintenant, pour choquer, il faut tuer des enfants. Walking Dead le faisait, Planet Terror l'a fait, personne n'a hurlé. Donc moi ça me choque pas plus que ça. Ils ont voulu faire du buzz, ça a super bien fonctionné, la preuve. La musique est géniale, on va l'écouter bientôt. Le montage est excellent. L'idée du trailer en elle-même donc est vraiment très bonne. Maintenant effectivement, est-ce que c'était vraiment nécessaire de tuer un enfant? Moi je trouve que ça fonctionne, mais
Il faut voir aussi ce que va proposer le jeu. Ça se trouve, les enfants, il n'y en aura pas tant que ça. Et peut-être qu'on en sauve, au contraire, pendant le jeu. Je ne sais pas exactement ce qu'on va jouer. Et, a priori, est-ce que ce sera un FPS, un TPS, un survival horror? On ne sait pas non plus. On n'a pas toutes ces infos.
On n'est même pas sûr, effectivement, puisqu'il y a... certains parlent d'un TPS. La plupart des screens sont FPS, donc c'est un peu bizarre, ouais.
Ok. Donc, on écoute ça tout de suite. La musique qui accompagne ce trailer de Dead Island, qui par contre là, alors là, rien à dire, est particulièrement réussi. On écoute ça tout de suite. Game Radio. Game Radio. Allez, on se réveille. J'espère que vous n'êtes pas endormi. Pipo, tu es là?
Tout à fait.
D'accord, tu dors pas?
Non, non, non.
Très bien. Alors, on va tout de
suite. Je vais envoyer les zombies, moi.
On va tout de suite accueillir d'ailleurs quelques réactions hein, sur le chat. Certains qui, je crois que Dopamine notamment, a apparemment pas tellement aimé non plus ce trailer, puisque lui-même est papa, si j'ai bien compris. Il trouve aussi d'ailleurs la musique assez basique et il souligne, c'est vrai que c'est ça qui fait tout l'intérêt de cette musique, c'est le contraste entre les images. Est-ce que la musique dégage cette espèce de nostalgie et c'est vrai que c'est assez surprenant. Voilà. On continue donc cette émission avec nos deux invités qu'on va recevoir tout de suite. Normalement, tout devrait bien se passer. Il s'agit donc de Thomas de Bagropoint. Vous le connaissez certainement si vous écoutez leurs émissions. Et allô, Thomas.
Oui.
Bonjour.
Bonsoir.
C'est Game Radio. Gus et Pipo.
Bonsoir.
Salut, salut.
Et alors, ouh là là, c'est la grande forme. Alors, il faut savoir qu'ils reviennent de, alors, deux jours, peut-être plus, deux jours de festival et de...
Quatre jours.
Alors, attendez, c'est un petit peu compliqué. Normalement, Sébastien est avec nous aussi. Sébastien? Oui, ils reviennent de la World, Game Cup.
M'entendez-vous?
Oui, on t'entend. Bonjour, bienvenue.
Parfait.
Bienvenue à tous les deux. Bienvenue à tous les deux sur Game Radio. C'est un véritable plaisir, que dis-je, un honneur de vous recevoir dans cette émission.
Oh. Ça tombe bien parce que c'est un honneur d'être reçu. Alors c'est parfait comme ça.
Ah, ça fait vraiment plaisir. C'est la première fois donc que Bagropoint et on va dire Game Radio se rejoignent en audio parce que c'était pas arrivé encore.
Non, jamais, non, tout à fait, ouais.
Alors, je crois savoir que Thomas est sur les rotules, totalement épuisé. Vous revenez donc de 4 jours. Vous étiez à Cannes parce que c'est là-bas que se passait donc la 4e édition du World Game Cup 2011 donc au Palais des Festivals. C'était ce week-end, ça s'est déroulé du 25 au 27 février. Ça a été un peu plus long pour vous, si j'ai bien compris.
Bah en fait, nous on s'est rejoint mercredi soir et on est revenu tout à l'heure.
Alors, à chaud comme ça, en quelques mots, vos impressions sur l'événement, sur ce que vous venez de vivre.
Seb, vas-y, commence.
Eh ben, alors, à chaud comme ça, excessivement bien organisé. C'est impressionnant que ce soit en termes de tournoi, que ce soit en termes de gestion des personnes qui vont poser des questions ou des éventuels problèmes, de la rapidité de réparation quand il y a un câble qui manque quelque part ou qui est cassé ou un écran qui lâche ou etc. C'était vraiment, vraiment, vraiment super bien géré. Ça, c'est vraiment moi ce qui m'a sauté aux yeux. Et puis, pour la deuxième chose, c'est l'ambiance générale. Il y a quelque chose de très festif. En fait, l'élément de comparaison que j'ai, ça va être le Stunfest. Mm-hmm. Le Stunfest, il y a quelque chose un petit peu plus familial. Là, on avait vraiment l'impression de quelque chose de vraiment pro, mais à la fois très très ouvert. Personne se prenait au sérieux. Toutes les personnes avec qui on a eu l'occasion de discuter et d'échanger étaient très ouvertes, très humbles. Et donc ça facilitait beaucoup les échanges.
Bon enfant, si je comprends bien.
Exactement.
Il faut savoir que c'était organisé au cœur du Festival International des Jeux. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer ce dont il s'agit? Festival International des Jeux, c'est pas que le jeu vidéo.
Non, c'est pas que le jeu vidéo, puisque là, il y avait vraiment des jeux de toutes parts. Il y avait des gens qui étaient là avec des jeux de cartes, il y avait des jeux de société, il y avait des jeux de famille, il y avait des jeux de rôle, puisqu'il y avait également des gens qui étaient là avec même des costumes, il y avait des épées en mousse, enfin, il y avait vraiment dans tous les domaines, des choses qui étaient très, très riches. Et toutes les personnes qui étaient sur place, du coup, étaient là encore très souriantes, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger aussi avec les stands. C'était vraiment très agréable.
Alors, je veux pas dire de vous allez me le confirmer ou pas, c'est la première fois en France qu'un tel événement, du versus fighting, comme ça une compétition est retransmise en streaming notamment un gros site comme Gameblog, c'est pas la première fois.
Un gros site entre guillemets, non, mais par contre il y a eu d'autres compétitions, notamment en 2010, qui ont été retransmises en streaming. Et d'ailleurs, c'est ça qui est amusant, c'est que ceux qui ont retransmis le streaming, c'est-à-dire qui ont permis matériellement, gagner le matériel, etc., c'est la salle, c'est le site, les membres du site neoarcadia.com, qui en fait sont les premiers quasiment, on va dire, à avoir fait de manière très réussie du streaming, notamment dans les tournois de la salle d'arcade No Arcadia qui se trouve à Toulouse, près de la gare, et il y avait le comité Neo Arcadia qui a eu lieu en, si je me souviens bien, en octobre ou novembre, je crois, qui était, lui, intégralement retranscrit. Et ce sont ces mêmes personnes qui se sont déplacées pour la World Game Cup, en fait, pour assurer un des streamings, un autre streaming étant géré par une autre association qui s'appelle la SWGA, qui, elle, s'occupe de la région de Toulouse et Bordeaux, si je me souviens bien.
Ok, je rappelle voilà. que tu es particulièrement fatigué, ce qui explique ce débit un peu long, un peu lent voilà, et bas. Mais on te comprend, on te comprend même très très bien pour le coup.
Je suis en famille et tout le monde est parti se coucher sauf moi.
D'accord, mais en tout cas merci beaucoup d'être avec nous malgré tout. En tout cas, donc c'est pas le premier streaming, mais moi je suis allé jeter un œil sur les diffusions en direct et j'ai vu le nombre d'auditeurs connectés simultanément. Alors nous, là on est content, on a 50 personnes qui écoutent l'émission actuellement, je crois. Peut-être un peu plus maintenant, j'en sais rien, qui essaye tant bien que mal parce qu'on a des gros problèmes de serveur. Moi j'ai vu des chiffres assez énormes quand même, vous avez été beaucoup regardé.
Je crois qu'au plus haut il y a dû avoir 1300 personnes. D'ailleurs ça a mis à genoux un peu Gameblock si j'ai bien compris, ou en tout cas la page du streaming, parce que d'autres personnes ont ensuite mis le streaming sur leur propre site rapidement pour dépanner, parce que juste ça devenait ingérable, voilà. Mais oui, il y a eu énormément de monde qui ont regardé les streamings, sachant qu'il y avait deux streamings, je précise.
Allez, on va.
Donc si t'ajoutes les deux streamings, au maximum, tu devais avoir 2000 personnes, en fait.
Alors, est-ce que, je crois que Sébastien, c'est toi qui étais, t'étais régulièrement, tu es là, oui.
Je suis toujours là.
Ouais, d'accord, ok, tu étais régulièrement au micro, si j'ai bien compris, je crois que tu faisais partie des personnes qui ont commenté de façon très régulière la plupart des matchs.
Oui, enfin disons que j'étais là continuellement, mais là il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est surtout Ken Bogart et Asenka qui ont fait le plus gros du travail, puisque c'est eux qui commentaient réellement ce qui se passait au moment des actions. Là nous on était l'intermède, on était le moment où justement il y avait un trou, où entre les matchs, les rounds, on a porté aussi nous-mêmes nos propres petites lumières.
D'accord. Est-ce que vous avez eu du très beau spectacle dans cette World Game Cup? Est-ce que vous en avez pris plein les yeux? Vous avez kiffé?
Ah, il y a eu de très très belles choses. Ah oui, ça là, par contre là c'est du coup on arrive sur du haut niveau. Là on commence à avoir dans certains domaines de très bonnes équipes françaises ou de très bons joueurs. Il y a des moments où c'est tout simplement magique. Alors quand on est joueur soi-même et qu'on a un niveau entre guillemets pas trop dégueulasse et qu'on voit des choses que on se sait incapable de faire, c'est comme quand je sais pas si vous avez déjà pratiqué du sport plus ou moins haut niveau et que vous arrivez dans une vraie compétition, vous voyez la différence en fait. Et puis c'est motivant, ça donne vraiment envie de continuer à progresser, d'aller plus loin.
Est-ce que tu peux nous livrer peut-être le nom de quelques joueurs que t'as remarqué? Thomas par exemple.
Ouais. Alors juste pour on va dire qu'il y a les habitués, parce que la World Game Cup. En tout cas, sur Street Fighter 4, par exemple, qui est le jeu le plus joué.
Qui a été le plus regardé aussi, du coup, sur le streaming.
Aussi, oui. On a eu la performance, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression habituelle, des top players français, autrement dit Renegad, Kongster, Luffy et Starnab, entre autres, qui ont gagné énormément de choses à Street 4, même s'ils ont perdu le solo, la France a perdu le solo contre un Américain qui s'appelle Daiminion, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça.
Sinon, en termes d'autres jeux à Soul Calibur, car on le rappelle, à la base la World Game Cup existe depuis 2002. Et à la base la World Game Cup était un tournoi Soul Calibur avant d'être un tournoi multiplateforme. Mmh. Et les Français sont classés parmi les meilleurs mondiaux et depuis des années en fait à Soul Calibur. Et on a noté la performance de Thierry, Maxou et un joueur allemand qui les ont rejoints, qui ont écrasé, je crois, lors d'un tournoi, mais il y a eu un tournoi, en fait, international. Et en fait, les Français ont roulé sur l'Allemagne.
Mais de toute façon, ils ont explosé clairement tout le monde, hein, sous le Calibur 3-3, c'était, mais vraiment, c'en était arrivé à un moment où, enfin, je sais pas si vous connaissez un peu sous le Calibur, mais, il y a un joueur qui a éliminé toute l'équipe, c'est-à-dire que les autres joueurs n'ont même pas eu l'occasion de toucher le stick ou le pad, et il en était arrivé à un tel moment moments de connaissance du jeu que il faisait quasiment tout le temps des sorties, des ring out, et il se jetait après après le personnage qu'il avait jeté, il se jetait aussi en disant tiens tu vois je t'ai vaincu mais je te rejoins t'inquiète pas, c'était
grand seigneur.
Voilà, grand seigneur, le très provocant aussi malgré tout, ouais. C'était très...
Si on peut noter aussi la performance de à BlazBlue, parce que BlazBlue, on n'en parle pas beaucoup, c'est un jeu beaucoup moins médiatisé, de Skill, qui est un ancien joueur, je sais plus quel jeu il jouait, mais en tout cas le mec il est venu, et c'était son premier tournoi de BlazBlue, et en gros il a gagné tout seul le tournoi team, son coéquipier a pas joué ou a fait un match, et ensuite il a gagné tout seul le tournoi solo.
Il joue Rania, je crois, de mémoire.
C'est ça.
Alors donc, là, j'ai sous les yeux un petit peu la façon dont ça s'est déroulé. Il y a des tournois console, des tournois arcade. Comment on différencie les deux cercles? Les tournois console, ça se passe sur 360, tout simplement, avec un stick arcade, voilà. C'est ça? Ok.
Voilà,
alors, pas forcément stick. Vas-y.
Pas forcément stick arcade. Il y en a qui jouent à la manette.
Tout à fait.
Voilà. Le FIC est probablement, à mon avis, un des trois meilleurs français. Il joue à la manette PlayStation 1, tu vois, donc avec un adaptateur. Mais en gros, ce qui différencie les consoles, les jeux arcade des jeux console, c'est que les jeux arcade étaient... Tous les tournois, en fait, se passaient sur une borne. Autrement dit, tu pouvais avoir 25 personnes qui faisaient un tournoi. Le tournoi se faisait sur une unique borne, sur la version arcade du jeu. Alors que les tournois console, même s'ils sont des jeux utilisés, enfin, issus de l'arcade, c'était les adaptations sur console. Donc Super Street Fighter 4, BlazBlue, Tekken, Soul Calibur, entre autres.
D'accord. Qu'est-ce que vous retenez non, c'est pas vraiment la question que je vous ai sur place. C'est la question que moi je me suis posée quand j'ai vu le streaming, quand je vous ai vu sur place. Est-ce qu'il y avait des spectateurs? Est-ce qu'il y avait beaucoup de visiteurs? Ça se passe à Cannes. Est-ce que c'est judicieux de faire un événement comme ça à Cannes? Est-ce que selon vous, ça aurait pas été mieux peut-être à Paris? Est-ce que ça aurait pas eu plus de succès? Est-ce qu'au contraire?
J'ai un avis très prononcé là-dessus. Les meilleures ventes ne se font jamais à Paris.
D'accord.
Et ça, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que pour faire un bon event, il faut de la place. Donc, autrement dit, il faut un endroit grand. Que Paris, c'est trop cher. C'est impossible de faire un event de cette taille à Paris. Et que, généralement, quand c'est pas fait à Paris, l'ambiance est totalement différente. Donc, on a déjà parlé du Stunfest, on a déjà parlé de la World Game Cup qui existe depuis des années. Et si c'est des events qui ont une telle réputation, c'est non seulement parce qu'ils sont pas organisés, pas toujours organisé par que des Parisiens, mais aussi par des provinciaux, donc qu'on voit rarement en fait sur la scène, qui sont rarement médiatisés, mais qui sont présents. Et ensuite, parce que justement, comme on se déplace en province pour aller faire le tournoi, sachant que moi j'habite à Caen, donc je suis même pas parisien, le truc c'est que comme tu te déplaces, tu as une notion de voyage pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a quasiment personne qui peut dire, bah tiens, j'habite à Cannes, je vais aller faire la World Game Cup, je suis un pro-gamer. Donc de base, t'as une notion de voyage, donc d'aventure, donc de rencontre, tu vois, tu prends le voyage, et tu ajoutes ça à un tournoi, tu vois.
Il y a presque... On voyage parfois ensemble, en plus.
Ouais, il y a un petit côté traveler, un petit peu underground, presque, dans le délire, ou pas? Je me trompe, je sais pas, c'est l'impression que j'ai, comme ça, en t'écoutant.
Si, un petit peu, je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour rejoindre ce que disait Nathan, clairement, enfin, moi, j'ai participé c'est plus ancien, mais à des choses qui se faisaient dans la région parisienne. Je me souviens notamment d'événements qu'il y avait autour de Saint-Maur, et l'ambiance, effectivement, était pas du tout pareil. Bon, déjà, la place ne s'y prête pas, parce qu'effectivement, ça peut pas être des très gros événements. Et puis, tout ce que j'ai vu en dehors de Paris ou de sa région parisienne, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a quelque chose de bon enfant, en fait, on se sent accueilli quand on n'est pas du milieu. En fait, c'est pas, tiens, moi, je sais jouer, je vais t'écraser. Il y a, ah, bah, toi, tu sais pas faire ça, bah, viens, je vais te montrer. Alors que c'est vrai que dans la région parisienne, et c'est pas du tout pour critiquer, parce que j'habite moi-même dans la région parisienne, il y a quelque chose un petit peu plus, austère.
D'accord. Voilà,
en fait, comme tu te déplaces pas, si tu veux, généralement, quand les tournois sont sur Paris, et il faut pas se leurrer, une grosse partie des meilleurs joueurs est sur Paris, les gars, en fait, c'est leur quotidien. Alors que quand tu te déplaces dans un endroit différent, de base, en fait, t'as pas, entre guillemets, de temps à perdre. Tu peux pas remettre à plus tard la bonne ambiance. Tu peux pas remettre à plus tard les connaissances, les rencontres et tout. Donc, de base, tout le monde est très relâché, très agréable. Et au final, c'est, je trouve, à mon avis, ce qu'il y a de meilleur.
Alors, ce qu'on va faire, si vous voulez bien, on va se tourner vers le chat Game Radio, puisqu'on a un chat qui permet de communiquer un peu avec les auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que vous avez des questions à poser peut-être à Sébastien ou Thomas, qui sont avec nous, qu'on n'aurait pas posé nous-mêmes? A priori, ils sont d'accord avec vous. C'est bien qu'il y ait que les events aient lieu ailleurs qu'à Paris. Je crois que Rio a été tout à fait séduit par ce que vous avez fait, en tout cas en termes de commentaires, lors de cet événement.
Pourtant, il a pas été traumatisé.
Comment?
On en a dit des conneries, hein. T'as pas dû regarder le streaming entier. On a fait les cons.
Je me doute. Moi, je voulais vous poser une question, bien sûr, qui concerne l'actualité jeux vidéo, forcément, une nouvelle sortie, un nouveau jeu qui était jouable, dans sa version console. Ouais, c'est ça. Lors de ce World Game Cup, il s'agit de Marvel vs. Capcom 3. On en a un petit peu parlé déjà en amont dans l'émission, il y a quelques minutes. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle mouture?
Vas-y.
En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il arrive à point nommé, parce que, si tu veux, on va remettre les choses du point de vue, si tu veux, le jeu de baston n'est jamais mort. Malgré ce que les sites de presse généralistes peuvent nous faire croire, c'est juste qu'eux, ils y jouaient pas, tout simplement. Alors que des jeux de baston, ça a été commencé en 92, on va dire qu'il y a eu une petite mort, entre guillemets, entre 2005 et 2008. Mais c'est vraiment une petite mort, tu vois, parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Et donc, la médiatisation qu'a rapporté Street Fighter 4, ça a apporté aussi une façon de voir le genre du jeu de baston. Autrement dit, tu vois ça comme quelque chose de sérieux, parce que le jeu, il est sérieux, il est posé, il est carré, tu sais, c'est pas flashy, c'est propre et tout. Et le truc, c'est que pour réussir un pressing, il faut vraiment calculer ses déplacements. Genre, par exemple, avec Gookie, pour faire un pressing bien, une fois que t'as mis le mec au sol, il faut courir vers l'avant deux fois, faire un mini-pas, et là, tu fais ce type de saut, et ça fait ça, tu vois, et là, t'es sûr que le mec, il peut pas sortir. Et moi, je trouve ça chiant. Voilà, c'est un jeu chiant. Enfin, moi, je trouve ça chiant parce que l'évolution du jeu de baston a voulu qu'on fasse des jeux qui se reposaient de moins en moins sur des mécaniques rébarbatives, mais de plus en plus sur ton esprit et sur ton intelligence. Autrement dit, appuyer sur les boutons, la technique, les combos étaient devenus de plus en plus simples, mais il y avait de plus en plus de choses à gérer à l'extérieur de cette exécution. Et en fait, Street Fighter 4 a remis au goût du jour l'exécution, mais avec ce qu'on appelle un manigame, donc un jeu de l'esprit, on va dire, beaucoup moins poussé, en fait, par rapport à ses homologues de l'époque. Là où j'aime bien Marvel.
Plus basique, j'ai envie de dire.
Voilà. Mais très bon, très basique et très bon. Et là où j'aime bien Marvel, c'est que, tu vois, c'est comme un MMO, c'est comme EVE Online, c'est un bac à sable. Tu fais ce que tu veux dedans, t'en as rien à branler. Tu vois, le mec, il t'envoie une furie dans ta gueule, tu sautes au-dessus, t'envoies la furie depuis les airs à 45 degrés, c'est pas grave. Tu vois,
C'est du jeu de baston débridé, quoi.
Enfin, en fait, au-delà de débrider, en fait, c'est que les gens, tu peux faire ce que tu veux. Et donc, au final, les gens se retrouvent un petit peu désorientés en se disant, ah oui, mais attends, dans Street 4, on m'expliquait qu'il fallait faire ça. Et là, t'as envie de leur dire, bah non, là, c'est fun, tu vois, immédiatement. Tu fais ce que tu veux.
Pipo,
c'est ça que j'aime bien.
Pipo qui doit être avec nous encore.
Oui, tout à fait.
Ouais, doit partager le même avis puisqu'il est complètement.
D'ailleurs, j'en profite très vite juste avant pour faire un gros bisou à Gags si à un moment il nous. j'ai beaucoup joué avec lui à Super Street Fighter et je compte faire beaucoup de Marvel aussi. Passons.
Pardon. Alors, on a quelques commentaires sur le chat. Je pense qu'on a un décalage assez énorme entre le moment où on parle et le moment où on nous entend. Alors, apparemment, certains, alors je vous trouve très correct, hein, pourtant, là dans l'émission tout va bien, il n'y a pas eu un mot vulgaire, mais apparemment certains vous ont trouvé particulièrement vulgaire lors de vos commentaires. Est-ce que vous confirmez?
Je vais me permettre de répondre à ça. En fait, la personne qui nous trouve vulgaire en fait ne connaît tout simplement pas le mot. En fait, il faudrait qu'il ouvre son dictionnaire. On a été grossier à certains moments, c'est vrai, mais on n'est jamais vulgaire. Non, il faudrait qu'il regarde cette petite différence. Valentin de Dantaga, lui, par moment est vulgaire, mais il n'était pas là cette fois, donc on s'est chargé d'être grossier à sa place.
Et question donc de Dopamine qui demande d'où vous avez sorti tout le matos borne console.
Alors ça c'est
tout. Vas-y.
Alors vu que je connais un petit peu mieux, je vais vous expliquer. Alors les consoles c'est très simple, elles sont prêtées par Microsoft, les jeux ils sont prêtés par Capcom, entre autres par Namco qui prête les Soul Calibur et les Tekken par exemple. Les Marvel je crois ont été prêtés aussi par Capcom et les bornes ça vient de deux salles d'arcade. Une parisienne et une lyonnaise. La parisienne, c'est le Versus Dojo qui se trouve au boulevard République, dans le sous-sol du magasin Square Games, que je vous invite à aller voir, c'est très sympa. Et l'autre, c'est le magasin Game Spirit à Lyon, qui a une mezzanine en fait dédiée à l'arcade, sur laquelle on peut jouer à des jeux de baston. Et donc c'est deux personnes qui ont loué carrément un camion et qui ont foutu leurs bornes dedans en les ayant démontées et ils les ont remontées sur place, ils ont mis les jeux dedans et voilà quoi, les bornes sont arrivées comme ça et les consoles ont été majoritairement prêtées, même si certaines, particulièrement des vieilles consoles, genre des PS2, des Neo Geo et tout, ont été prêtées par des joueurs.
Ok. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Je ne sais plus. Florent qui en rajoute apparemment sur l'histoire de la vulgarité, mais on a bien compris le message. Pipo, est-ce que
je vais me permettre de dire, je reste aussi sur la grossièreté, non pas la vulgarité. Effectivement, il y a une différence. Le jeu de baston, le jeu vidéo déjà en multi souvent, mais encore plus le jeu de baston rend grossier. Et je reparle encore de gags. Je peux dire que on dit beaucoup de mal de nos mamans respectives à chaque partie.
T'es pas mais le seul à dire des choses sur les mamans avec gags, en fait.
À manquer de respect, ouais, exactement. Et c'est le parler de la rue, quoi. C'est pas Street Fighter pour rien. C'est pas, voilà.
En fait, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faudrait pas oublier, les gens qui nous écoutent et qui ont redécouvert ou découvert le genre avec Street, c'est que les gens qui organisent la World Game Cup, ils sont pas arrivés avec Street Fighter. Comme je disais, la World Game Cup, ça date de 2002, la première édition. Et encore avant, il y avait des tournois. Et entre 2000 et 2011, maintenant, non, 2011, il y a eu des dizaines de tournois, des dizaines de trucs organisés, même des centaines, on pourrait dire, par des associations de vieux de la vieille, si vous voulez, qui sont pas nés de la dernière pluie, qui savent ce qu'ils font. C'est pour ça qu'on arrive à organiser des trucs pareils. Et j'ai envie de dire, si on a envie d'être vulgaire, et ben on prend le droit d'être vulgaire, parce que de toute façon, le jeu de baston, excusez-moi de le dire comme ça, c'est un jeu. Et je sais pas si vous faites des jeux à boire avec vos potes ou si vous vous engueulez jamais quand vous perdez ou quand vous faites un coup de pute, mais dans ce cas, je vais dire, vous êtes quelqu'un d'absolument exceptionnel. Et quand on est dans l'ambiance d'un tournoi comme ça, qu'on le commente, et ben forcément il y en a un qui prend parti, l'autre pas, et puis bah forcément on rentre dans le jeu, quoi. Donc
pour enchaîner là-dessus, c'est exactement ça, c'est qu'il y a une ambiance, il faut remettre les choses dans le contexte. Quand nous animons un podcast avec l'équipe de Bagro Point, il y a des moments où on va essayer de faire effectivement attention, suivant le type de podcast qu'on va faire, à être plutôt sans sombrer dans le côté professoral, un petit peu plus sérieux quand on va parler de l'histoire du jeu, quand on fait ce qu'on appelle le pif de l'actu, et le pif de l'actu porte très bien son nom. C'est vrai que c'est un moment où on va se lâcher un peu plus. Là, pour le cas de la World Game Cup, c'est qu'on était vraiment dans quelque chose qui est on était dans l'ambiance complètement. Donc quand il y a des choses qui sont extraordinaires qui arrivent devant, au même titre que, je sais pas, si vous allez voir un match de foot, si vous aimez le football, quand vous êtes au stade, vous aurez une réaction qui sera complètement différente que si jamais vous en parlez effectivement à tête reposée, en disant oui, le ballon doit être comme ça, ou etc. Voilà, il y a la théorie, et puis il y a un moment où vous êtes dedans, et quand vous êtes dedans, et bien vous le vivez. Voilà, il y a des choses, par exemple, pour faire une image qui n'a strictement rien à voir, quand vous êtes en train de coucher avec votre copine, par exemple, ou votre copain, il y a un moment où il y a peut-être des mots en fait qui vont ressortir.
Mais non,
en temps normal ne serait pas
ça
dit. Je dis n'importe quoi. Non, mais il y a des insultes qu'on va pas se balancer au petit déjeuner le matin. Hein, on va plutôt être dans t'as bien dormi, alors qu'à d'autres moments, c'est des moments qui vont plus se prêter à certains jeux. Voilà.
Je suis bien d'accord.
Les joueurs de jeux de baston sont de gros dégueulasses.
Ouais, mais moi je peux être extrêmement grossier rien qu'en jouant à Tetris, hein, de toute façon.
Ah mais Tetris, attention, hein, Tetris c'est un jeu très sale. Il rend grossier, donc je suis bien d'accord.
Extrêmement grossier, très bien.
Et je voulais en profiter pour rebondir sur ce que disait Thomas sur le jeu vidéo n'est pas mort dans les années 80 pour revenir avec Street Fighter 4. C'est vrai que sur la centaine de tournois, faut pas oublier que un jeu de baston c'est super pérenne par rapport à d'autres types de jeux. C'est-à-dire qu'un Modern Warfare, une fois que les gens seront passés à celui d'après, ben le premier ne fonctionne plus. Là, Street Fighter 3.3 a duré pendant 10-15 ans. 12 ans, voilà, j'imagine qu'il y a une tonne de Guilty Gear XX aussi en France qui a été jouée. Ouais. Enfin, il y a vraiment beaucoup de jeux et la durée de vie d'un jeu de baston est beaucoup plus longue.
2X qui est sorti en 94 était toujours joué à l'heure actuelle. C'est même le jeu qui a son propre tournoi. C'est quand même pas rien. Donc
en ce moment, il y a un gros revival de 2X en fait suite au Stunfest. Parce que on m'entend toujours là.
On t'entend très bien.
Ouais. Pardon, j'avais moins de bruit.
On sait que tu es mort, mais là.
Voilà. En fait, par exemple, si on peut prendre un exemple que tout le monde a peut-être un peu plus vécu ou entendu parler, le Stunfest de l'année dernière. Stunfest, habituellement, depuis 2-3 ans, est devenu un peu la Coupe du Monde de Capcom versus SNK2. Donc, je pense que certains le connaissent sur Dreamcast. Alors, vous allez me dire, qui joue à Capcom versus SNK2 aujourd'hui? Désolé de le dire comme ça, mais il y a 40 mecs Puis tous les ans, moi ça aussi. Ressemble. Il y a 40 mecs.
Mais tu fais partie des 40 mecs, en fait.
Voilà.
On est deux, là.
Tous les ans. Et tous les ans, en fait, les mecs, bah, ils font Coupe du Monde avec un ou deux Japonais qui sont invités. L'année dernière, il y avait Ichi et Tokido. Et Tokido, il joue peut-être à Street 4, à Akuma. Mais il est vachement plus impressionnant sur Capcom versus NK. Et tu vois, t'as envie de dire, le jeu, il est sorti en 2001. Je crois qu'il a même eu dû avoir une sortie française, mais complètement passée inaperçue. À l'époque, tout le monde s'en foutait, tu vois.
Moi, j'ai eu énormément de mal à me le procurer sur PS2 à l'époque. Voilà. Et je m'étais rabattu, effectivement, sur la version Xbox qui est sortie un peu après. Je l'ai récupéré plus tard.
Et donc, tu vois, il y a plein de gens qui disent, ouais, Capcom vs NK2 l'année dernière, c'était énorme, c'était sur grand écran, ça hurlait dans tous les sens. Et il y a plein de gens qui se sont dit, ah, je jouerais bien Capcom vs NK2. Et l'année dernière, Street Fighter 2X a fait le même effet. Et cette année, il y avait plus de joueurs de Street Fighter 2X. Il y avait moins d'un an de jeux qui sont venus à la World Game Cup et qui ont fait qu'il y avait plus de gens qui jouaient à Street Fighter 2X au tournoi que de joueurs de Guilty Gear. Moi, qui est sorti en 2007.
J'avais une question plus large plutôt que d'essayer de comprendre le succès de tel ou tel jeu. D'une manière générale, comment vous expliquez l'engouement général que reçoit les jeux de baston aujourd'hui? Parce que finalement, même moi qui suis une grosse bille à Street Fighter 4, j'ai pas hésité à l'acheter, quoi.
Mais un jeu de baston en soi, au-delà même du problème de scénario, dit Nico Hockey, c'est que c'est un jeu qui a pas de fin, par principe, s'il est bien fait. Donc, quand on commence à rentrer dedans, on va découvrir, et ce, à quel que soit son niveau, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont comprendre des choses plus vite, et qui donc forcément, qui vont devenir plus vite. Il y a des gens pour qui ça va prendre plus de temps, mais c'est des jeux qui n'ont pas de limite. On trouve des choses encore aujourd'hui. Alors, 2X, c'est un jeu, entre guillemets, maintenant, qui est connu par certains joueurs vraiment dans tous les sens. Donc là, ça discute plus, mais on découvre encore des choses, par exemple, sur Street Fighter 3.3, alors que c'est un jeu qui est sorti en 99, et c'est incroyable de voir des joueurs sortir de nouvelles tactiques sur tel ou tel personnage qu'on croyait vraiment, complètement, c'est bon, on a fait le tour, etc. Là, on est en 2008, 2009, 2011, etc. Non, c'est bon, on continue à trouver des trucs.
Ouais, et vous croyez pas à un phénomène de mode? A priori, c'est pas une mode. Attends. C'est une évolution.
Je vais répondre à ça, en fait.
Oui,
on va dire très simplement, si tu veux, que Capcom, dans les années 90, ils faisaient du jeu de combat, puis ils se sont dit, bon, on a fait 10 ans de jeu de combat, on a nous-mêmes noyé le marché en sortant trop de Street Fighter, en sortant trop de séries, en sortant trop de trucs, puis la 3D est arrivée, on se souvient tous de Street Fighter X, qui était très amusant à jouer, mais qui était complètement moche, et au final, ils se sont dit, bon, on va changer de sujet, on va revenir au beat'em all 3D. Tu vois, on va revenir au beat'em all. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont fait Devil May Cry, puis ils ont fait Resident Evil 4, et je vous rappelle que depuis tous les jeux à la troisième personne, ils ont la caméra à l'épaule de Resident Evil 4, et puis on arrive maintenant à des jeux, Gears of War 3, c'est la même chose que le 2, qui était la même chose que le premier. Donc voilà, on arrive au bout du beat'em all, va falloir le réinventer, mais là, pour l'instant, on est à sec. Alors ils se sont dit, qu'est-ce qu'on sait faire? On sait faire du jeu de baston, donc on va en refaire. Et Capcom, c'est le seul éditeur de jeux de baston, enfin créateur éditeur de jeux de baston, qui est capable de foutre des affiches de Street Fighter dans le métro. Voilà. Et ouais, c'est pour ça que Street Fighter s'est vendu. C'est pas uniquement par la qualité du jeu, c'est parce que quand t'as du fric, ton truc, tu le vends de toute façon.
Ouais, c'est une question de merchandising. Ok.
Je suis d'accord. Je casse sans doute beaucoup de
le mythe un peu. Ouais. Ça.
Mais Street Fighter 4, s'il ne s'était vendu que c'est au hardcore gamer, si t'es sorti de manière confidentielle, le jeu il aurait été oublié, mais tout de suite.
Est-ce que justement des événements comme la World Game Cup ou le Stunfest, qui sont soutenus, tu l'as dit, par Microsoft, par Capcom, c'est une belle vitrine finalement pour ces jeux-là, ça leur donne le côté underground un peu... Vous êtes pas payé pour faire ce que vous faites ou c'est ici justement?
Non, pas du tout.
D'accord, alors comment est-ce que vous expliquez bénévole. Que d'un côté... Ouais, donc d'un côté on a quand même des grosses sociétés qui se blindent en vendant leurs jeux, ça c'est des gros succès, et de l'autre côté donc on fait entre guillemets travailler des personnes comme vous, très talentueuses, passionnées, et qui fait ça, j'imagine, avec plaisir. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous ambitionnez peut-être qu'un jour vous puissiez vivre de tout ça? Je sais pas. Alors, si vous comprenez le sens de ma question.
Non, vas-y, tu veux peut-être répondre.
Ouais, en fait,
on souhaiterait tous, par exemple, que Ken Bogard, je parle de lui parce que je le connais un petit peu, et vu le talent qu'il a, puisse en faire un métier, pourquoi pas, en imaginant que
Mais Ken Bogard va en faire un métier, monsieur. D'accord. C'est en cours. Okay. Ça va se faire, t'inquiète pas. Et normalement, on devrait avoir des infos là-dessus bientôt. Mais si tu veux, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que le pro gaming dans le jeu de baston n'existera pas en France et il n'existe pas non plus aux États-Unis. Le jour où il y aura 15-20 personnes qui pourront vivre en jouant, tu vois, on pourra dire aux organisateurs, ok, on te paye pour jouer, pour organiser le tournoi, pardon. Actuellement, c'est pas le cas. Et le truc, c'est que Capcom, malgré ce qu'on pourrait croire, tu vois, on imagine que Capcom, c'est tout puissant, il doit avoir des milliers de dollars et tout, en fait. Non, on va dire clairement, imaginez qu'il y ait des mecs aussi motivés que nous dans tous les pays d'Europe, vous imaginez bien que ça fait du monde qui demande du financement. Et il y a un truc aussi qu'il faut pas oublier, c'est que on s'est débrouillé comme des chefs pendant 10-15 ans pour faire nos tournois, donc au final on a des moyens, il y a des gens qui ont créé des associations, qui ont cherché des financements, et au final ça fonctionnait déjà bien avant que Street Fighter ou Capcom reviennent. Et s'ils ont donné peut-être plus de visibilité au truc, ça fonctionne en fait comme avant, quand il n'y avait personne pour donner de l'argent. Donc peut-être que ça se professionnalisera, et déjà c'est bien, parce que maintenant, tu vois, Microsoft, ils prêtent des consoles, alors qu'avant, les PS2, c'est les joueurs qui les ramenaient,
ils ramenaient des télés.
Mmh. Et tu vois, donc ça s'améliore, tu vois, en termes d'organisation, ça s'améliore. On a de l'aide, on a des trucs. Après, de là à payer un staff pour faire ça, si on avait dû payer tous les arbitres, tous les staffs, tous les gens qui ont organisé, parce que la World Game Cup, ça se finit à 20h, mais le dimanche, toujours jusqu'à 23h, les gens, ils rangeaient les télés, quoi. Ouais. C'est des trucs comme ça, c'est impossible.
D'accord.
Je te jure, c'est impossible. C'est comme tourner un court-métrage ou un truc comme ça. Même si t'as 25 000 € de budget, tu vois, si tu fais un truc pro, tu paieras personne, et les 25 000 €, même sans payer les acteurs, ça ira dans la régie, la bouffe, la location de matériel, etc. Donc c'est quasi impossible, en fait, d'être payé aujourd'hui pour organiser un tournoi.
Quoi qu'il en soit.
En même temps, ouais. on le demande pas. Enfin, là, nous, quand on nous a proposé de le faire, on était très heureux, très honorés, que ça se passe comme ça. Donc, si nous, on a fait le choix de descendre sur Cannes, c'était vraiment un choix.
D'accord. Et à vos frais, non, j'arrête. Je plaisante. qu'est-ce que je voulais dire?
Il n'y a pas de honte à parler d'argent.
Non, pas du tout. Non, bien sûr. Mais c'est
un super cher, etc. Je trouve
intéressant d'en parler aussi. Est-ce que donc des événements comme ça, avec du streaming et la possibilité de le regarder, comme ça a été le cas pendant 2 jours, ça va être de plus en plus souvent? Est-ce que c'est quelque chose de très ponctuel selon vous? Le Stunfest arrive bientôt aussi.
Pour l'instant, c'est très ponctuel. Par principe, de toute façon, la technologie évolue constamment. C'est des choses qui vont devenir de plus en plus normales. Il y a des choses qui, entre guillemets, seront faites de manière plus ou moins qualitative en fonction des gens qui vont les animer ou des machines sur lesquelles ça va tourner. Mais effectivement, les grosses associations, entre guillemets, même avec peu de moyens, auront du matériel de plus en plus puissant par principe, tout simplement parce que ça évolue.
Ouais, c'est vrai. Je relève la phrase là dans le chat de Atomic Ash qui dit que vivre financièrement de sa passion, c'est bien, mais déjà juste vivre sa passion, c'est une très bonne chose. Donc
il a tout à fait raison. Voilà, c'est exactement ce que je pense.
Exactement.
Il y a un truc aussi, par contre, si je peux lui permettre de lui dire, c'est que par exemple, on a fondé Bagropoint il y a un an et quart à peu près, et que Bagropoint, si tu veux enregistrer des podcasts, se déplacer, aller à des tournois, ça coûte du fric, tu vois. Donc moi, j'ai un trou dans mon portefeuille et on va finir par le rentabiliser un jour en ayant des financements. Mais il faut pas oublier que la passion, c'est très bien, vivre sa passion, c'est très bien, mais il vaut mieux la vivre entre guillemets sainement, et c'est bête à dire, mais l'argent, c'est ce qui fait vivre le monde. Donc faut pas non plus se ruiner pour sa passion, parce que dans ce cas, c'est plus une passion, c'est une obsession. Faut vivre ça sainement, et je pense que la World Game Cup, justement, y arrive très bien, parce que les gens qui le font, tu vois, ils sont réalistes sur ce qu'ils font. Ils se disent, il y a ça, non, ça, il faut qu'on le fasse plus modeste, parce que ça, c'est pas possible, mais ça, on peut mettre le paquet, tu vois, parce que New Arcadia, par exemple, peut mettre le paquet sur streaming, parce qu'ils sont forts, mais on peut pas mettre le paquet sur tel truc, parce qu'on n'a pas de financement, ou parce qu'on peut pas se le permettre. Donc, faut aussi se dire que si on a la World Game Cup aujourd'hui, c'est parce que les associations, et les gens qui les composent, et les gens qui organisent, et aussi les joueurs, en un sens, ont beaucoup mûri avec le temps, et savent mettre également, puisqu'on parlait d'argent tout à l'heure, sur la table les problèmes de financement, d'argent, et s'adapter dans la situation.
Ah oui, là c'est le moment où je pense moi aussi aux difficultés que j'ai à faire vivre Game Radio, mais c'est un autre débat.
C'est exactement la même chose, hein, c'est ni plus ni moins la même chose.
Effectivement. Alors Thomas, Sébastien, qu'est-ce qui va se passer là dans les semaines qui viennent? Déjà, vous allez, j'imagine, récupérer si c'est pas déjà fait. Est-ce que sur un podcast en prévision sur Bagropoint, est-ce qu'on va avoir donc peut-être des retours sur ce que vous avez vécu, des détails sur les matchs et tout ça?
Non.
Non. Forcément.
Arrête, en fait, c'est fini. C'était trop fatigant. On arrête tout. Merci. Au revoir.
J'ai presque envie de dire que Sébastien a raison. Cannes, c'était trop fatigant. En fait, il y a tellement de choses à dire. Enfin, je veux dire, Il y a tellement, désolé de le dire comme ça, mais il y a tellement de connardies dans cet event que, en fait, c'est impossible de tout raconter. Et en un sens, on pourrait raconter les résultats, mais d'autres l'ont déjà fait. Pff, c'est juste des noms dans une liste. Donc peut-être qu'on va prendre un petit peu de recul. Et puis on va se dire, on va écrire un petit compte-rendu, un petit truc en texte, hein, pas en audio, parce qu'en audio, on pourra pas se déplacer juste pour ça. Mais on va peut-être faire un petit truc en texte sur qui va parler un petit peu de ce qu'on a parlé ce soir, en un sens. Mais sinon, ce qui pourra venir de notre part, bon, bah déjà, on va refaire un listing de toutes les vidéos de tournois, de tous les passages un peu idiots ou un peu débiles qu'on a fait, comme par exemple quand on avait des fausses dents et des casquettes à hélice, quand c'était du Marvel.
Non, c'était pas moi, c'était ma sœur.
Ouais, oui. Et c'était mon oncle. Et le truc, c'est que voilà, c'était déjà super crevant. D'habitude, tu vois, on voulait tenir au courant les gens en disant vas-y, va sur Twitter, il y a ça, machin, battu, machin. Puis au final, comme on était sur le stream toute la journée, on l'a fait en live. Et malheureusement, pour ceux qui n'ont pas vu le stream, c'était difficile de suivre. Mais on n'avait juste pas le temps et pas les moyens de le faire. Donc là, on va faire un petit compte rendu écrit, je pense, mais plus sur le feeling de les ventes que sur les résultats. Et on n'est pas trop, comment dire, des pros de la scène versus fighting qui vont vous dire lui, il a progressé, lui, il a régressé. Donc,
et puis en plus, il y en a voilà. Qui le font très bien. Je pense à Bachaka par exemple qui est vraiment très très doué dans ce domaine là fait typiquement ce genre de choses, et ce serait dommage effectivement en plus qu'on en vienne nous les uns les autres à se marcher sur les pieds, surtout quand il y a des gens qui sont très doués dans un domaine.
Je rappelle, Bachaka, c'est hitcombo.com, qui est un site qui suit vachement l'actualité des gros joueurs français, en fait, essentiellement parisiens, et qui organise aussi des rencontres online, en fait, toutes les semaines, je crois, entre différents joueurs européens. Donc, hitcombo.com, parce qu'il mérite de la visibilité, Bachaka. Voilà.
Ok, justement, à propos de visibilité, de partenariat, dernière question. Gameblog, comment ça s'est passé avec eux? Vous êtes vraiment en relation ou c'est...
C'était... Alors là, je vais parler en tant que chef. Je suis le chef, bordel de merde, de ma gros point. Si tu veux, ça s'est passé tout à fait correctement. J'aurais aimé qu'il y ait plus de préparation en amont, qu'on nous dise ce qu'ils comptaient faire, qu'on leur dise ce que nous on comptait faire. Non, pour le reste, ça peut aller sans trop de soucis. Il faut dire qu'on a eu une expérience assez difficile l'année dernière avec notre ancien site de jeu généraliste qui nous était, que je ne nommerai pas ici. Mais en gros, qui lui avait plein de thunes, mais avait pas beaucoup de passion. Là, Gameblog, je pense que ce qui va être sympa de la part de Gameblog, c'est que c'est le post-coverage, tu vois. C'est que ils ont filmé énormément. Ils m'ont dit qu'ils avaient fait 8 heures de rush, tu vois. Ça va être un reportage de 20-30 minutes. Ils ont interviewé des tas de gens. Il va y avoir, pour l'après-vente, ça va être très agréable, tu vois. Mais sinon, rien de particulier à dire. Ça s'est correctement passé. Très bien. Rien à dire, quoi.
Okay. On peut pas parler de partenariat parce qu'on n'est pas partenaire dans la vie de tous les jours, mais en tout cas on a vraiment travaillé en symbiose là-dessus et dans des conditions qui étaient, une fois qu'on était sur place à Cannes, tout à fait correctes.
D'accord, très bien. Bah écoutez, Thomas et Sébastien, merci beaucoup d'être venus dans cette émission. À peine, quasiment, à quoi, le surlendemain de, même pas, on est lundi, vous êtes rentrés cette nuit.
En fait, cet après-midi, en fait, je suis arrivé moi chez moi, voilà. Juste à l'heure pour pouvoir déposer mon sac et aller chercher ma fille à l'école.
Ben, je suis vraiment très touché que vous ayez participé dès ce soir à cette émission, cette première d'ailleurs en live streaming pour Game Radio, qui était un petit peu difficile au début. On a eu beaucoup de mal avec le stream, mais je crois que ça s'est un peu stabilisé. Je le souhaite, j'espère que ça se passera mieux.
Ah, mais c'est le revers du succès.
Oui, on va dire ça. Il faudrait surtout beaucoup plus d'argent là aussi pour pouvoir payer des serveurs plus lourds et pouvoir accueillir plus d'auditeurs en même temps. Voilà,
très bien. Je vais dire un dernier truc.
Oui, bien sûr.
Ok, alors je vais faire ma première, deux trucs, je vais faire ma pub, alors venez sur vagropoint.fr parce qu'on fait des podcasts très bien et que surtout on a un newser de fou qui fait un travail exceptionnel que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur la presse française. C'est-à-dire que vous serez tenu au courant de tous les jeux et il le fait de manière exceptionnelle. Il est très didactique, il est très bien, donc je pense qu'il mérite, et il est rejoint depuis par d'autres personnes. Je remercie les gens qui nous aident sur Bagropoint, parce que le but que j'ai fait quand j'ai créé Bagropoint, c'était de me dire, j'aime les jeux de baston, mais je suis inculte dedans parce que je suis trop jeune. Alors je me suis dit, je vais combler ma propre inculture en parlant avec des gens qui eux s'y connaissent, et au final, voilà ce que ça donne. Et sinon, je voulais aussi dire aux gens qui nous écoutent, qui ont découvert des jeux ou autres, qu'il faut pas avoir peur d'essayer d'autres jeux, que vous trouverez forcément, si vous avez découvert avec Street 4, c'est peut-être pas forcément le jeu qui vous correspond le plus. Il y a des dizaines de jeux qui sont tous plus originaux et géniaux que les autres. Et il y a un moment où il va y avoir un déclic dans votre tête, et même si le jeu n'est pas joué beaucoup, il n'y a pas de scène française ou autre, dosez-le, parce que si vous arrivez dans un tournoi avec votre console, votre jeu, et que vous dites « moi je joue à ça, est-ce qu'on peut le mettre ?» Vous trouvez tout le jour, il y a quelqu'un qui vous dira « il n'y a pas de souci ». Voilà, donc trouvez votre jeu de cœur, dosez-le, et c'est comme ça qu'on crée justement une petite scène de gens qui se rencontrent, qui dosent le jeu, qui progressent. Nous, à Guilty, on était 16 joueurs, je sais pas si vous imaginez, il y en avait 170 à Street Fighter 4. On a fait un tournoi à 16 et on a eu une finale démentielle. On avait le créateur du jeu qui était là, qui a remis les prix, enfin c'était super émouvant. Donc des choses arrivent, et voilà, le genre est vaste, le genre a 20 ans. Donc explorez-le, on essaie de vous aider avec les podcasts, à vous dire qui a inventé quoi, à trouver des jeux originaux, à vous aider un peu. Donc voilà, ne restez pas sur ce que vous connaissez, acceptez d'être surpris, acceptez la nouveauté ou l'ancienneté qui serait très nouvelle aussi. Et je pense que là, vous kifferez encore plus le genre que ce que vous pouvez aimer aujourd'hui.
J'hésitais à te laisser l'antenne, mais je crois qu'on va reprendre l'émission. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce message. Effectivement, on peut trouver, c'est comme un amour, hein, chaussure à son pied. Effectivement, parfois, on trouve son jeu de cœur. C'est très, 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 très vrai ce que tu viens de dire. Donc, babagrospoint.fr.
Et juste éventuellement, ouais, remercier SNK pour tout le travail qu'il a fait sur place à Cannes et toute son équipe, parce que bah, sans lui, sans eux, en fait, il n'y aurait pas eu justement cet événement. Donc, merci à lui, merci à eux.
Et voilà. SNK, c'est un garçon très gentil, mais il hurle beaucoup trop quand il commente. Il m'a brisé deux tympans.
En fait, oui, tout à fait. Les deux. Ken Bogart aussi, mais il avait déjà plus de voix.
Mais en tout cas,
on a réglé le problème.
En tout cas, merci pour le spectacle que vous avez offert à des milliers de joueurs là pendant 2-3 jours. Et puis pour tout ce que vous faites tout au long de l'année, ça c'est une évidence. Merci à Bagropoint et à toutes les personnes qui tournent dans cet univers du versus fighting et qui permettent aux gens de se développer et de se faire connaître. Voilà, bon, on va en rester là pour cette émission.
Oui, et bravo les gars aussi. c'est voilà, ça vient d'un petit grouillot, mais bravo, c'est mortel et c'est bien que des gens le fassent.
D'accord.
Merci beaucoup, merci à vous. Oui. Et puis, je crois que Tao Kaka veut dire un truc. Merci Tao Kaka.
Pipo, je rappelle, tiens, te concernant, qu'il y a un site qui arrive prochainement, bardevie.fr.
Voilà. .fr.com.net, tout ce que tu veux.
À surveiller, ça débarque sur le net, je pense, dans pas longtemps, dans quelques semaines.
Dans pas longtemps, ouais.
Ok.
Merci pour l'info.
Pipo, on se reverra.
Je sais.
Voilà.
Justement, Pipo, on se reverra.
Merci, merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés ce soir. J'espère que demain, s'il y a une émission, mais il y en aura certainement une, faites-moi confiance, eh bien, ça se passera un petit peu mieux en ce qui concerne le serveur, le chat et le streaming. On vous donne rendez-vous demain pour un prochain live Game Radio. À bientôt. Ciao.
Bonne soirée. Ciao, ciao. Game Radio.
Invade you.